Donc, Baruch Hashem, on était chez le Rabbi. Et on a eu l'occasion, Shabbat, de raconter un peu comment ça s'est passé. Comment s'est passé le voyage chez le Rabbi. Et une chose, en tout cas, que j'ai ressenti particulièrement cette année, je me fais une introduction. D'ailleurs, on va le voir, on va en parler tout à l'heure dans le cours. C'est que, on sentait qu'on approche maintenant cette année, quand on va arriver à Guimel Tammuz. Guimel Tammuz, c'est la Hiloula du Rabbi. Donc, Guimel Tammuz, c'est en début juillet. Ça va être le 20e anniversaire de la Hiloula du Rabbi. Donc 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est beaucoup. Ça. 20 ans, c'est une génération. Ça veut dire qu'on a... C'est énorme. 20 ans, ça veut dire quoi? C'est beaucoup. Ça. Le temps, il passe vite.
Je me rappelle, j'ai accompagné ton père à l'aéroport.
Ah, c'est vous qui avez accompagné mon père à l'aéroport. Ça fait 20 ans. Et 20 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu des enfants qui sont nés depuis, des enfants qui ont grandi. Il y a une génération entière qui a grandi et qui n'a pas vu le Rabbi. Mais ce qu'ils ont beaucoup insisté dans les sessions, parce qu'il y a beaucoup de sessions, il y a tellement de sessions en simultané, il y a plusieurs moments dans lesquels tu as 15 sessions en simultané, c'est-à-dire que tu peux pas tout assister, donc tout est enregistré. Et après, là, dans 2-3 semaines, on va le recevoir par mail, enfin un lien pour les télécharger. Et après, pendant plusieurs mois, je les écoute parce qu'il y a de quoi écouter pendant, je sais pas, il doit y avoir au moins là-bas 300 heures ou je sais pas combien d'heures. C'est énorme. Et en tout cas, une idée qui revenait beaucoup dans les sessions, c'est d'expliquer le fait que d'un côté, quand on est maintenant après Guimel Tammuz, après l'Hiloula du Rabbi, on sent, même celui qui ne veut pas le voir, on sent que le Rabbi est toujours avec nous, spirituellement. Et on vient de commencer là. On sent comment le Rabbi est toujours avec nous, on sent comment, concrètement, le travail est fait, le travail avance. Mais d'un autre côté, plus on avance et plus on comprend que ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'il nous faut un Rabbi en chair et en os. D'accord ? Hein ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Non, c'est pas ça. Puisqu'on parle de la base, en tout cas aujourd'hui, il n'y a personne qui peut remplacer le Rabbi. Donc ça veut dire que le Rabbi, les dernières années, il a beaucoup insisté sur le fait que notre génération est la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, un des thèmes qui revenait beaucoup au Kinous, est-ce que quelque part on ne s'est pas un peu trop endormi dans le cocon de la Galoute? Et que bon, on se dit, bon, ça va. Ah, finalement, on ne vit pas si mal que ça. On a une parnassa, on a des enfants, on a un rabbi qu'on va demander des brachot quand on a besoin, d'accord? Il y a la tombe là-bas, on va demander quand on veut, kever de tzadiki, mais c'est fini. Mais en vérité, on s'est un petit peu endormi dans notre cocon, et ce qu'il avait beaucoup expliqué, c'est le fait qu'il faut sortir de tout ça, et il faut essayer maintenant de demander sincèrement à Kadosh Baruch Hu d'amener Mashiach. Donc c'était vraiment un kinous qui était très très émouvant. Mais j'aurai l'occasion, Bezrat Hashem, dans la suite du cours, je vais essayer de faire un rapport de vous parler de tout ça. Alors. Aujourd'hui, maintenant, et je parle aussi de ta question. Aujourd'hui, hein? Non, t'as dit.
Non, ça veut dire qu'il faut avancer. Pour avancer, il faut une tête. Sans tête, on ne peut pas avancer.
Oui. Irène Reina Bachava Soulika. Plus on avance et plus on sent que la tête est là.
Non, je comprends tout ce que tu dis. Tout ça, on comprend.
Voilà. Bon, on fera si Dieu veut encore sur ça. Alors, maintenant, on va parler de David Ameler, le roi David. D'accord? Donc on a la page, vous avez la page
319. Quelle ligne c'est?
Ben David Mirot, en bas là, David. David, j'ai choisi le jour où tu es en vacances pour parler de toi.
Deux David, deux rois. Deux pour président.
David. David Zmirot Karialeu. Alors, d'abord, une petite introduction avant de commencer, ce qui est de quoi il va parler ici, l'Admor HaZaken. Ça c'est une lettre, donc c'est une nouvelle lettre, hein, un nouveau sujet. Mais qui en vérité est en rapport direct avec ce qu'on a appris dans les lettres précédentes. Dans les lettres précédentes, on a expliqué l'importance de la halakha. D'accord? Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a expliqué plusieurs fois l'importance de la halakha, comment dans la halakha se trouve la volonté de Dieu. Et on avait expliqué il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, que même si des fois c'est des halakhot qu'on ne va jamais accomplir parce que c'est des halakhot qui ne sont pas d'actualité, on avait expliqué que le fait même d'étudier une halakha, ça s'appelle que tu étudies la volonté, le concept razak, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'importance d'étudier la halakha. Ça, c'était la conclusion qu'on avait eue il y a 2 semaines. Maintenant, à ce propos, la Gemara nous raconte que, vous savez que le Aaron, l'Arche Sainte, qu'on avait hérité donc depuis Moshe Rabbeinu, on l'a toujours gardé, et à un moment elle a été prise en captivité par les Philistins, les Pélishtims. D'accord, les Pélishtims, c'est pas les Palestiniens, parce que les Palestiniens ça n'existe pas. C'est un peuple qui n'existe pas. D'accord? Non mais ça n'existe pas les Palestiniens. C'est les Philistins. Voilà, parce que voilà, hein, je vais pas faire de politique, mais ça n'existe pas. Alors, on est apolitique, exactement. Donc, les Philistins, ils ont vu que les Bnei Israël, ils gagnaient toutes les guerres. Et ils se sont dit, eux, ils étaient en guerre. À chaque fois, ils essayaient de les attaquer dans tous les sens. Et à chaque fois, ils voyaient qu'ils perdaient les guerres. Alors, les Philistins, ils ne sont pas contents. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Quelle est la force d'Israël? Donc, il y a toute une histoire dans le Nard qu'on raconte, comment ils ont réussi à prendre quelqu'un, et lui poser des questions, et le questionner, etc. Et à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que la force d'Israël, c'est l'Arche Sainte. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on partait en guerre, on prenait l'Arche Sainte, on la mettait à l'avant, et c'est comme ça qu'on allait en guerre. Et on dit que cette Arche Sainte-là, elle a planifié les problèmes, elle a planifié les sorts, enfin, des miracles extraordinaires. Oui, depuis l'époque du temps.
On est placé,
Mais toujours. L'Arche Sainte, toujours, elle était à l'avant du cortège. Pour montrer que quand on va en guerre, Dieu n'est pas en guerre avec nous. Et donc, quand les Philistins ont compris que c'était l'Arche Sainte finalement qui assurait la réussite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un stratagème pour voler l'Arche Sainte. Ils ont dit, on fait pas la guerre, on va leur voler l'Arche Sainte. Donc, ils l'ont volée. D'ailleurs, on parle même dans la Guémara de prise en captivité de l'Arche Sainte. Ils ont réussi,
ouais.
Oui, parce que, en général, nous, on attendait la guerre, donc on se préparait à la guerre. Mais eux, ils sont pas venus pour faire la guerre, ils sont venus, et pas qu'ils ont réussi à la voler. C'était petit, hein, c'est très petit, c'est une boîte comme ça.
D'accord.
Bon, ben, c'est la guerre. Ils sont arrangés pour.
Ouais,
voilà. En tout cas, ils ont réussi. C'était pas le Beth Amikdash comme on connaît aujourd'hui. Le Beth Amikdash comme on connaît aujourd'hui, il n'était pas construit. On avait à cette époque-là une sorte de Mishkan. Donc c'était un petit Beth Amikdash de dépannage. Donc bon, on peut imaginer que c'était pas très sécurisé. Donc ils ont volé. Donc ils l'ont pris en captivité. Et ça s'est passé comme ça pendant plusieurs mois. Donc les Philistins, ils l'ont gardé, ils l'ont mis dans leur ville, je crois que la ville s'appelait Nov, et ils n'ont pas compris pourquoi au début, mais il n'y a eu que des malédictions. Tous les jours, il y avait des morts chez eux. Et ils ne comprenaient pas. Chaque à la fin, il y a un de chez eux, c'était le roi ou je ne sais pas qui est venu, qui a dit, attendez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il a dit, c'est pas possible, depuis qu'on a ramené cette Arche Sainte, depuis qu'on est dans cette chambre, on a que des problèmes. Alors au début, ils ont essayé de la prendre, de la cacher, de la mettre dans une pièce, de la mettre dans les souterrains, etc. Mais rien n'y faisait. Tant que l'Arche Sainte était dans la ville, il n'y avait que des malheurs dans la ville. Parce qu'ils n'ont pas su lui donner le cavote qu'il fallait. Alors, on raconte, on dit qu'à ce moment-là, ils ont envoyé un message à Israël.
Il appartient au propriétaire qui lui donne le cavote, peu importe qu'il soit goy ou qu'il soit pas goy.
Ah non, ils l'ont volé. Le fait même qu'ils l'ont volé, c'était pas bon. Dedans, il y avait les tables de la loi, il y avait un Sefer Torah que Moïse a écrit. Je veux dire, c'est l'Arche Sainte, c'est pas simplement le Sefer Torah. C'est un Sefer Torah qui a été écrit par Moïse et les tables de la loi. Ainsi que les débris des premières tables de la loi.
Donc, qui s'appelle Arche Sainte,
L'Arche Sainte.
Un carton dans lequel il y a tout ça. Ah, d'accord.
Non, c'est un coffre en bois, recouvert d'or.
Dans lequel il y a, d'accord.
D'accord. Dans lequel il y avait. Dans lequel il y avait. Mais c'était une caisse qui était faite de manière à ce que n'importe où on devait partir en voyage, si Dieu préserve, le Beth Amikdash devait être détruit, ça se transportait très facilement. Tout le Israël, toute l'histoire de Israël est dedans. D'ailleurs, en passant une petite parenthèse, que cette Arche Sainte, elle existe encore aujourd'hui.
Elle est où?
Alors, à la fin de l'époque du premier temple.
Au Vatican.
Les Rami, on cache, non, elle n'est pas au Vatican, celle-là. Justement, à la fin de l'époque du premier temple, quelques années avant la destruction, quand les Chachamim ont ressenti que la destruction n'était pas loin, selon les Averroes, ils ont senti que la destruction n'était pas loin, ils ont caché cette Arche Sainte sous la terre, et ils ont donné l'instruction de la ressortir seulement quand on pense qu'on aura un Beth Amikdash qui sera viable, qui restera longtemps.
On sait qu'elle est cachée
dans le mont du temple, pas loin du côté là-bas,
à Jérusalem.
À l'époque du second temple, il y a eu un débat parmi les Chachamim, est-ce qu'il fallait le ressortir? Et les Chachamim m'ont dit, pour l'instant, le Ham Israël n'est pas encore prêt. Ça veut dire, pour l'instant, on pense que ce Beth Amikdash, lui aussi, sera détruit à terme. Ce qui était vrai.
Ah ouais,
ouais. Ça, il savait. Selon la situation du Ham Israël, selon les Averot, etc., ils savaient où ça allait. Donc, ils ont décidé de ne pas le ressortir. Et donc, ce que vous avez parlé du Vatican, c'est une réplique qu'on a fait. Et dans cette réplique, il y avait peut-être un Sefer Torah, mais il n'y avait pas l'étape de la loi, il n'y avait pas le Sefer Torah de Moïse. Il est caché sous terre.
Bah oui.
Non, Moshe Rabbeinu, il en a écrit 13.
Il en a écrit 13,
il en a donné un à chaque tribu, et le 13e, on l'a mis dans cette arche. Donc les 12, on a perdu la trace. Il y en a qui disent qu'il y en a un qui est à Prague, qui a été retranscrit de ça. Bon, enfin bon, en tout cas, il n'y a pas une trace précise. Mais par contre, ce 13e-là, ça, on sait qu'il était dans cette arche sainte, qui est toujours là.
Et on est sûr qu'il est là-bas.
100%. À 100%, c'est tout le monde est d'accord avec ça.
C'est
vrai, comment on peut savoir?
D'être sûr.
C'est à 100%, c'est historique, tout le monde est d'accord avec ça. La Gemara, le Talmud raconte dans plusieurs endroits, il dit que voilà, c'était caché, ça n'a pas été ressorti, on le sait.
Mais non, ils ont des consignes quelque part.
Ils ont même caché la menorah. La menorah, comment ils avaient fait, elle est cachée sous la bosse. La menorah, qu'il a parlé du Vatican, c'est une réplique qu'on a fait au Second Temple. Tout ce qu'ils ont pris, c'est les répliques. C'est Kadosh, parce que c'était au Beth Amikdash, mais c'est des répliques.
Mais on l'a transmis à personne, l'endroit exact où c'est...
Non, personne le sait.
Donc, à force de faire des couilles, au bout d'un moment.
Mais comment on sait où aller alors ?
Quoi ? Ah, bah, c'est. Comment on sait où aller ? Ouais. Ceux qui l'ont caché, ils savent où ils l'ont caché.
Ouais. Oui,
quand Bachar reviendra, ils nous le diront.
Ah, voilà. Non, mais à force de faire des couilles.
Moi, je vous ai raconté une fois au cours du Shabbat après-midi, que. Je vous ai raconté une fois. Bon, enfin, c'était pas le thème du cours, hein, mais bon. Je vous ai raconté une fois dans le cours du Shabbat après-midi que. Ça fait quelques années, c'est dans les années 50. J'avais même lu la copie du journal Yediot Acharonot, qui est un journal sérieux israélien. Ils faisaient les fouilles à Jérusalem. Et à un moment, il y avait un endroit dans lequel il y avait une sorte de porte en fer, ou je sais pas ce que c'était. Ils essayaient de la percer. Et chaque fois qu'ils essayaient de la percer, chaque fois, il y avait des trucs bizarres. Du style le tracteur qui se cassait, qui se retournait contre la personne. Enfin, des trucs bizarres, quoi. Des trucs pas normaux. Et chaque fois, il y avait des gens qui mouraient. D'accord? Chaque à la fin, ils ont posé la question au rabbin. Comme ça, c'était écrit dans Yediot Acharonot, hein. Et les rabbins leur ont dit, certainement que l'endroit que vous touchez, c'est un endroit que Dieu ne veut pas que vous accédiez. Et depuis, apparemment, ça a été muré. J'ai aucune idée où c'est, je sais pas où c'est. Mais, c'est ce que j'avais entendu à Jérusalem.
Avec les technologies d'aujourd'hui, on peut savoir un peu.
Avec les technologies d'aujourd'hui, tu peux tout savoir.
Mais ils ont pas cherché.
Je sais pas. Ah, c'est une caisse aussi, hein. C'est pas énorme,
hein. Oui, mais c'est rempli d'or dedans.
On sait que là-bas, il y a la menorah. D'accord? La menorah. Il y a l'arche sainte avec ce qu'elle contient. On sait qu'il y a aussi le pectoral du Kohen Gadol. Vous savez, le fameux pectoral sur lequel il y avait un miracle, sur ce pectoral. On dit que quand il parlait à Dieu, quand il posait une question à Dieu, Dieu lui répondait au travers de ce pectoral. Par exemple, il posait une question, est-ce qu'on doit aller là-bas? Est-ce qu'on doit aller en guerre contre tel pays ou pas? Si la réponse était oui, toutes les lettres Raf et les lettres Noun du pectoral s'allumaient. Et donc Raf et Noun, ça fait Ken. Si la réponse était non, toutes les lettres Lamed et toutes les lettres Aleph s'allumaient. Oui, parce qu'il y avait les noms des 12 tribus, mais dans les noms des 12 tribus, il y a plusieurs Kaf et plusieurs Noun, plusieurs Lamed et plusieurs Aleph. Toutes les lettres s'allumaient, comme ça on avait la réponse. Ça, on dit celui-là, il a été caché aussi, avec ces pierres-là. Et on dit qu'à l'époque du Second Temple, il n'y avait déjà plus ce miracle. Ce miracle que Dieu parle au Cohen. Ça veut dire, de manière générale, on dit que dans le Second Temple, il n'y a pas eu tous les miracles qu'il y a eu au Premier Temple.
Mais alors, ça veut dire que dans le Premier Temple, on était arrivé à un niveau important.
Ah, très important.
Qu'on n'a jamais retrouvé depuis.
Jamais retrouvé. Ce niveau-là, on l'a jamais retrouvé. On avait un niveau de proximité avec Dieu qui était extraordinaire. Par exemple, on raconte que dans le Beth Amikdash, il y avait un miracle, que tout le monde était serré. Quand on est à Kippour, etc., tout le monde était très serré. Ça, c'était surtout au premier temple. Dès qu'est arrivé le moment de Yom Kippour, dans lequel on devait se prosterner, le Kohen se prosternait, tout le monde avait de la place. Comment c'est possible? Tout le monde se prosternait, tu te prosternes, t'as de la place. Tu te relèves, t'es serré. C'est pas possible. Des miracles comme ça, des miracles qui sont incompréhensibles. Ou bien c'est écrit dans Pirkei Avot aussi, il y avait un miracle avec toute la viande qu'il y avait là-bas, avec la chaleur qu'il fait à Jérusalem. Normalement, ça aurait dû tourner. Normalement, il devrait y avoir des mouches.
Ah oui.
Des mouches, mais c'est quelqu'un qui a déjà visité un abattoir, vous savez le nombre de mouches qu'il y a avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Imaginez à l'époque, avec les centaines d'animaux qui passaient par jour, les mouches, il n'y avait pas une seule mouche dans le Beth Amikdash. Des miracles comme ça, des choses que naturellement on ne peut pas expliquer. D'accord? Bon, ça je refais la parenthèse. En tout cas, je reviens au roi David. Donc, l'Arche Sainte a été prise en captivité. Voilà. L'Arche Sainte a été prise en captivité. Au bout de quelques mois, les Philistins ont craqué. Les Philistins ont craqué. Ils ont envoyé un message aux Juifs. Ils leur ont dit, venez reprendre votre... On fait pas la paix. Hein. Ils ont dit, attention, on fait pas la paix. Mais venez reprendre votre Arche Sainte. Oui, ils ont dit, venez reprendre. Alors, il y a un moment, ils l'ont posé dans un endroit. Ils ont dit, on le posera là-bas et vous viendrez la chercher. Vous savez, comme les services secrets, tu vois. On posera là-bas, tu vas la chercher là-bas. Voilà, bon. Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on raconte que David Ameler, il était tellement content, c'était lui qui était responsable, il était tellement content de ramener l'Arche Sainte, que... Pardon ? C'est lui qui était responsable. Et donc, bien sûr, il l'a ramené en dansant, etc. Mais il y avait un problème. C'est qu'il a préparé une sorte d'estrade qui était montée sur une charrette. Une sorte d'estrade. D'accord ? Et comme ça, il s'est dit, on va poser l'Arche Sainte dessus, et on va la pousser, et bon, ça va être l'estrade, quoi, pour faire la fête. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que c'est écrit clairement dans la Torah que l'Arche Sainte, on n'a pas le droit de la poser sur une estrade. Sur une estrade dans le sens, sur une charrette. Il faut la porter à l'épaule, à la katef. Clair, noir sur blanc. D'accord ? Il le savait. D'accord ? Il le savait. Mais apparemment, il a oublié. Dans l'euphorie, dans le feu de l'action, il a oublié. D'accord ? Il a oublié qu'il fallait le porter sur les épaules. Il l'a posé. Et là, la Gemara, elle raconte là-bas. La Gemara raconte, elle dit qu'à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est que, dans le chemin, il y avait des gens qui commençaient à se sentir mal, qui commençaient, et on n'a pas compris. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ramène l'Arche Sainte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il y en a là-bas qui a compris, qui a dit, mais attendez, il y a un problème, il faut le porter sur les épaules, et là, tout s'est arrêté. Bon. Ça, c'est l'histoire. D'accord? Pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant? C'est pas pour vous raconter des histoires, hein. Parce qu'il y a une suite. La suite, c'est quoi? C'est que la Gemara, dans le traité Sota, elle dit comme ça. Elle dit que David Ameler, à cause qu'il a manqué de respect à la Torah, parce qu'il n'a pas porté comme il fallait. Non, lui-même aurait dû le porter, ou bien il aurait dû demander à d'autres de le porter, mais pas le poser comme ça sur une estrade. Alors on dit à cause de ça, David Ameler, dans le psaume 119 qu'on a lu justement hier, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Zmirot ayuli chukecha bevet megurai. Il dit que tes lois, Dieu, sont comme des chansons pour moi dans ma maison. C'est-à-dire qu'il a comparé la Torah à des chansons. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Il a comparé, la Gemara pose la question. Il dit, comment comprendre? Quel rapport entre la Torah et une chanson? Il dit, Zmirot, donc vous connaissez les Zmirot, comme les Zmirot de Shabbat. Il dit, Zmirot, ayuli chukecha bevet megurai. Dans ma maison, la Torah, tes lois, sont considérées pour moi comme Zmirot, comme des chansons. Alors. On a envie de réagir tout de suite quand on entend les chansons, ça veut dire que c'est un plaisir. D'accord? Mais d'un autre côté, quand on dit que c'est une chanson, qu'est-ce que ça a comme connotation?
C'est un prof d'amour, une parole.
On parle de la Torah, les choses les plus profondes, et on te dit que c'est des chansons.
Bon, c'est futile.
Quoi?
C'est un peu léger.
C'est un peu léger. C'est vrai que d'un côté, j'entends ce que vous dites. Ça fait partie. Tous les arguments que vous dites sont dans la Gemara Sota. La Gemara Sota a un débat sur ça. Un débat sur ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que voulait dire le roi David quand il a parlé de la Torah en tant que chanson. Donc il y en a qui disent, chanson, ça veut dire qu'au contraire, qu'il est content de les lire, etc. D'ailleurs, il y a même des gens qui lisent la Torah en chantant. Tu sais, il y a le fameux R quand on étudie la Gemara. D'accord? L'air, il y a un R. S'il y a un R, ça veut dire que l'air, ça témoigne de l'entrain que tu as quand tu fais quelque chose. Mais d'un autre côté, quand même plusieurs ont dit, le fait de comparer la Torah à des chansons, ça fait un peu, comment vous avez dit, ça fait un peu futile, léger, tu vois.
Mais déjà, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on lui dit que c'est vraiment une faute? Il a pas fait un
tosser. Est-ce qu'il peut?
J'ai compris, mais c'est une bonne question. Mais à son niveau, on s'est battu pendant tellement de mois pour récupérer cette arche sainte. C'était le minimum de réfléchir comment on va la ramener. Pas de le faire dans l'euphorie, dans le feu de l'action. À son niveau, c'était reprochable. Parce qu'on parle pas à n'importe qui, on parle d'un responsable. C'est comme des fois par exemple, t'as un PDG qui fait une bêtise, on dit oui, on veut qu'il démissionne. Mais ça va, c'est une petite bêtise qu'il a fait. Oui, mais lui c'est le PDG. Moi je peux faire une bêtise, mais un PDG, la moindre erreur, quand tu considères que cette moindre erreur, elle va avoir des répercussions sur tout le peuple, la moindre erreur, on peut exiger la démission. Tu comprends? C'est accepté ça dans la Torah, le concept.
C'est pareil.
Oui.
Il faut une bêtise
démission. L'autre pour une bavure du commissariat, on voulait le vider de son poste. Tu vas me dire, est-ce que c'est logique, c'est pas logique? Je sais pas si c'est logique, mais il y a une logique dedans. La logique, c'est que, voilà, quelqu'un qui a une responsabilité, c'est comme ça. Alors, je reprends maintenant. Donc, David Ameler, on a dit qu'il a appelé la Torah des chants. Alors, quelque part, c'est un peu léger, mais c'est un peu léger d'abord. C'est un peu un manque de respect envers la Torah, mais c'est un peu d'abord un manque de respect envers lui, envers David Ameler. Parce que, quand nous on entend ça, on dit, mais attends, il a pris la Torah pour des chansons, mais dis-moi, il s'est pris pour un chanteur, celui-là, la Torah, c'est profond. Ça veut dire que, non seulement que lui, il a regardé la Torah d'un œil léger, mais c'est maintenant nous qui le regardons d'un œil léger, qui disons, mais attends, la Torah, c'est pas des chansons. Ça veut dire, on le regarde un petit peu de manière un peu légère. On se dit, oui, bon, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas trop compris ce que c'est la Torah. Qu'est-ce que dire? Quelle est la conclusion de la Gemara? Alors, là, vous inquiétez pas, quelle est la conclusion de la Gemara? La Gemara a dit, David, Zmirot, Karialeu. Qu'en vérité, c'était une punition que Akadosh Baruch Hu a donné au roi David. Que quelque chose que, comme dit la Gemara, même les petits enfants, ils savent que la Torah, c'est pas des chansons. La Torah, c'est profond. Pourquoi David Ameler a eu cette punition que, une fois il s'est exprimé, il a appelé la Torah comme des chansons? C'était une punition d'Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, à son niveau, pour répondre à ta question. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme tu as manqué de respect à ma Torah, alors une fois, je vais faire que quand tu vas t'exprimer dans tes télims de la Torah, tu vas l'appeler des chansons. Quoi? Parce que t'as pas su respecter la Torah, alors tu vas t'exprimer de manière comme ça les gens vont dire, ah, lui, c'est pas ce que c'est la Torah. C'est une punition. Vous savez qu'on dit que quand t'as qu'un jour puni les tzadikim en bas, c'est comme ça, quand ils arrivent en haut, ils sont clean. D'accord? Mais c'est une punition qu'il a eue. Ok. Maintenant, ce que l'Admor HaZaken va essayer de poser la question, il va dire, mais en quoi c'est une punition? Et là, je rejoins ce que Alex a dit. C'est Alex, c'est ça? D'accord? Il va dire, mais finalement, c'est bien qu'il appelait la Torah des chansons. Pourquoi? Il va nous amener le Zohar. Et là, il va nous amener que le Zohar, à plusieurs reprises, compare la Torah à des chansons. Donc finalement, comparer la Torah à une chanson, à un poème, c'est pas si négatif que ça. On sait que le plus grand poème qu'on connaît dans la Torah, c'est quoi? C'est le poème de Shir HaShirim. D'accord? Shirashnam, c'est le poème de Moshe Rabbeinu, c'est un poème qui est connu, mais le poème le plus connu, ça veut dire le plus long et le plus détaillé, etc., c'est le poème de Shirashirim, de Shlomo. Et on dit que la Gemara a dit Shirashirim, le cantique des cantiques. Exactement. Le cantique des cantiques, quand on le lit, ça a l'air d'un poème d'amour. Et la Gemara a dit que dans ce cantique des cantiques se cache en vérité le secret de la Torah exceptionnelle. Pourtant, c'est une chanson. Ça veut dire que c'est un poème, c'est pas du tout une connotation négative. Peut-être même au contraire, c'est une connotation positive. Que c'est quelque chose qui est très puissant. On sait très bien qu'il y a des fois des gens qui passent des journées à essayer de comprendre un poème. Eh bon, il y a les poèmes aujourd'hui qui font dans le rap, etc. C'est des bêtises. Mais il y a des gens intelligents qui savent se construire des chansons. Et une chanson bien construite, il y a une chorma dedans. Une chorma qui est peut-être plus intelligente qu'un livre. Donc, la question qu'il va poser ici, il va dire finalement, en quoi on comprend, comment on peut comprendre le fait que la Gemara a dit que quand David Ameler a appelé la Torah des chansons, c'était une punition. C'est peut-être une punition, au contraire. C'est peut-être bien qu'il appelait les chansons. C'est des poèmes. Et des poèmes, c'est beau d'appeler la Torah un poème. Ça veut dire qu'il y a une profondeur. Ça veut dire qu'il y a un message qui se cache derrière.
En plus, ça lui va bien. Enfin, on va dire par rapport à ce qu'on peut essayer de voir son comportement. Quand il est rentré dans la ville avec le Sefer Torah, on voit qu'il dansait, qu'il chantait.
Oui.
Donc, déjà, on va dire, ça fait comme quelque chose autour de, pas sa réputation, mais quelqu'un qui aime.
Qui aime chanter.
Voilà.
La joie.
Chanter ou faire des choses, mais par rapport avec la Torah.
Très bien. Donc toi, tu veux dire que c'est pas une punition. Le fait qu'il a appelé la Torah des chansons...
Ça lui correspond. On peut dire que ça lui correspond dans son domaine et qu'il a excellé là-dedans.
Alors David, qu'est-ce que tu en penses?
Mais quand il faisait les télims, il faisait en chantant avec l'art et tout. Avec
toujours,
oui. Il était toujours entouré de musiciens. Donc
et pourtant, on voit que la Gemara a dit que c'est une punition. Qu'il a appelé la Torah des chansons. Pourquoi? Parce que comme il a manqué de respect une fois à l'Arche Sainte, alors Dieu a dit, un jour, quand tu parleras de ma Torah, tu parleras de ça comme des chansons. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Bien sûr. D'accord, donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui maintenant. En fait, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est une chanson. D'accord, c'est très intéressant, c'est une lettre très intéressante.
On va expliquer ce que c'est une punition.
Voilà, exactement. D'abord, qu'est-ce que c'est une punition? Qu'est-ce que c'est une chanson? Qu'est-ce que ça représente une chanson spirituellement? Qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Et à quoi l'étude de la Torah représente? C'est vraiment très très intéressant ce qu'il va expliquer aujourd'hui. Alors il dit comme ça. Inebe Zohar, dans le Zohar. Vous avez dans les mots?
Oui.
Voilà, tout ça c'est l'introduction. Voilà, il nous a fallu quelques temps pour faire l'introduction, mais. Inebe Zohar, dans le Zohar, on appelle la Torah Shifra Doraita Urnana. Dans la Torah, dans le Zohar, pardon, on appelle la Torah, on l'appelle Urnana. C'est quoi Urnana? Urnana, c'est la chanson, comme Lechun et Ranena. Ah. Vous savez ce que c'est Lechun et Ranena? Lechun et Ranena, c'est quand Adam Arishon, à la fin du sixième jour de la création, quand il a vu toute la création que Dieu a créée, lui, il a été créé le sixième jour. Alors, on dit qu'il a rassemblé tous les animaux et toutes les créatures, et il leur a dit, les roues, allons, Nera Nena, on va chanter à Kadosh Baruch Hu. Et nous, en souvenir de ça, tous les vendredis soirs, on chante le Lechu Nera Nena, c'est pour ça que c'est chanté, pour se rappeler de ce chant que Adam Arishon a fait le jour de la création. Donc, le mot Nera Nena en hébreu veut dire quoi? Chanter. Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que la Torah, c'est Renana. Renana, c'est quoi? C'est les chansons. Donc, c'est bien de comparer la Torah à des chansons. C'est pas une punition. Alors, ou la vine, ma ou achevach, la kadosh baruchou, que je asur ou moutar. Essayez de comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit que, quelle est la louange d'Akadosh Baruchou, quel est le chant pour Akadosh Baruchou, que je asur ou moutar. Quand on dit qu'une chose est permise ou interdite. Donc là, maintenant, il va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est une chanson. D'accord? C'est quoi la Torah finalement? La Torah finalement, on a expliqué beaucoup dans les cours précédents. Vous allez voir, à la fin du cours, vous allez comprendre le fil. On a expliqué à plusieurs reprises que la Torah, c'est quoi? C'est des halachot. C'est ça le plus important pour nous. Ce qu'on a expliqué, la halacha, ça c'est la source, ça c'est moutard. Là, il te pose une question très simple. Il te dit, mais attends, avant d'avancer, il n'y a pas matière à poème quand tu dis ça c'est permis, ça c'est interdit. Matière à poème, c'est quand par exemple tu veux chanter un poème d'amour, tu veux chanter quelque chose de, je sais pas moi, des louanges, etc. Mais quand tu as un texte dans lequel tu dis ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est comme si t'as quelqu'un qui va te prendre un, comment on appelle ça, le code civil, et il va se mettre à faire des poèmes dessus.
Non, ça ajoute une nuance. D'accord. Ça ajoute une compréhension.
Alors, deux secondes. Mais la question qu'il pose, il dit d'abord, oui, c'est la question qu'il pose. Il dit, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, avant tout, c'est des halakhot. Alors, est-ce que sur des halakhot, on fait des chansons? Est-ce que sur un code civil, on va prendre le code civil, le code d'état civil, on va se mettre à dire, on va mettre des chansons, on va se mettre à chanter dessus? Mais on chante pas dessus, c'est pas fait pour ça. C'est pas un poème. Alors, donc, en quoi la Torah est liée à une louange? Alors, regardez ce qu'il va expliquer ici. Ça, en vérité, on va comprendre ça avec un pasouk qu'on dit dans Tehilim. Magadlu ma'asecha Hashem, me odamku marchevotecha. Ça veut dire combien Kadosh Baruch Hu, tes actions sont grandes, combien tes pensées sont profondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki inenoda, c'est connu. Shikol haolamot, elyonim vetartonim, tluim bedikduk mitzvah achatz. tous les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, dépendent des dikduk de la précision mitzvah achat d'une mitzvah. Derech machal. Vous allez voir tout de suite où vous en arrivez. Par exemple. Ima korban kasher naasi ichud elyon. On avait expliqué à plusieurs reprises que des fois, un simple détail peut faire qu'on va passer d'une mitzvah à une avera. Par exemple, la Torah te demande d'amener un korban au Beth Amikdash, un sacrifice au Beth Amikdash. Si le korban est kasher, qu'est-ce qui va se passer quand on va offrir le korban? Automatiquement, on dit qu'à ce moment-là, ça va faire un ichud elyon, ça veut dire que ça va faire quelque chose de très particulier en haut dans les sphères célestes, et ça va amener la bracha pour tout l'âme Israël. Ça, c'est si le korban se passe bien. Veim shina, si il a modifié un détail, par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, chez Kibel Adam Bismolo Derech Machal. D'accord? Par exemple, si il a reçu le sang, vous savez que quand il y avait l'animal, que dès qu'on faisait la shrita à l'animal, tout de suite on devait réceptionner le sang. Et on devait le faire avec la main droite. D'ailleurs, d'après un avis, un Kohen qui était gaucher ne pouvait pas servir. Vous êtes gaucher?
Non.
Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que.
C'est une infirmité.
Pas tout le monde est d'accord avec ça.
On peut pas tomber le sang.
Parce que.
C'est considéré comme ça.
En tout cas, c'est clair.
Si t'es un Kohen, il est infirme, une infirmité.
Oui, mais est-ce que être gaucher s'appelle une infirmité? En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il ne sait pas utiliser sa main droite, ça s'appelle une infirmité. Pourquoi? Parce que la majorité des choses qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était fait avec la main droite. Imaginez maintenant qu'on a fait un korban. On a amené une grosse vache. On a fait la shrita. D'accord? C'est-à-dire que le gars, il l'a amené depuis je sais pas où, il a fait la shrita. Le Kohen qui réceptionne le sang, au lieu de le réceptionner avec la main droite, avec la main gauche. Ça va. Après, il le repasse à la main droite et il va verser ce sang-là sur l'autel. Je veux dire, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il a changé un petit détail. Quel est le din? Quel est le din dans ce cas-là? Oh, ou bien deuxième exemple. Chez l'obikli charet kasher ou charet achatitza. Il y a une halakha. Comment doit être l'ustensile dans lequel on doit réceptionner? Ça doit être un ustensile qui doit être parfait, comme le keli avec lequel on fait une tilat yadayim. Si c'est un ustensile qui est fendu, c'est pas kasher. Ou bien, oh charet achatitza. Si par exemple, le sang, avant de tomber, c'est un détail qui est banal. Avant de tomber dans le récipient, il est passé d'abord par autre chose. Il a touché autre chose et après il est allé sur le récipient. Vous savez, quand tu verses dans une bouteille, avant de tomber dans le verre, je sais pas, peut-être ça a touché d'abord un paroi à côté et après ça tombe. Quel est le din dans ces trois cas-là? Le korban n'est pas kasher. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est comme si t'as rien fait. C'est comme si t'as rien fait du tout. Si, mais attends.
C'est pas lui qui l'a fait.
D'accord. C'est un petit détail. Prends fait tellement un drame pour un petit détail. C'est rien du tout.
C'est pas ça.
C'est le Cohen qui doit rembourser. Il y avait une caisse d'assurance pour ça. N'inquiète pas, on a pensé à ça, bien sûr.
Assurance.
Alors, à l'époque, c'était le Cohen perso qui devait payer. Et après, à un moment, ils ont fait une caisse d'assurance. Une sorte de caisse d'assurance, quoi. Une caisse de Cohenim.
Il y en avait beaucoup.
Ça arrivait, ouais. Ça peut arriver. Avec la masse qu'il y avait, surtout quand il y avait beaucoup d'affluence, ça peut arriver. C'est statistique. Oui.
Moi, j'avais une question. Quand tout à l'heure, vous parliez, la Torah, c'est pas des chants, ce genre de choses.
Oui.
Mais même nous. Quand on vient, on fait la prière. On chante.
C'est la prière. C'est pas l'étude.
Même quand on lit la Torah, on chante.
Oui, mais c'est pas l'étude. Quand on lit la Torah, on fait pas de l'étude. Là, on parle de l'étude.
Oui.
Le fait que le roi David y compare de l'étude à un poème, je sais pas moi, c'est comme tu dis qu'il y a un grand scientifique qui va parler par un poème. Ça fait un peu déplacé. C'est comme ça qu'on a compris dans la Gemara. Que normalement, un scientifique, il parle avec un style scientifique, pas avec un poème. Seulement, ce que le Zohar va te dire qu'a priori, au contraire. Dans un poème, il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi? D'abord, la question qu'on va se poser avant, c'est la question qu'on se pose ici. Avant même de comprendre qu'est-ce que c'est un poème, il faut d'abord comprendre, est-ce qu'il y a matière à poème dans la Torah? Alors, a priori, on a dit, non, il n'y a pas matière à poème, puisque la Torah, c'est quoi? C'est des halakhot. Est-ce qu'on va prendre le code civil pour faire des poèmes? Pas du tout. Il te dit non. Il te dit, dans la Torah, il n'y a pas que, c'est pas seulement un code de loi qui te dit ça tu fais, ça tu fais pas. C'est beaucoup plus profond. Dans la Torah, il y a le fait que, comme on dit ici, qu'avec un petit détail, tu peux passer d'une mitzvah à une avera. Il va donner encore un autre exemple. Et ça, quand on va réfléchir à ça, il va expliquer comment avec un petit détail, tout peut changer et comment on a la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le mode d'emploi. Quand on voit ça, on a envie de chanter Akadosh Baruch Hu, de lui dire merci Akadosh Baruch Hu. Je sais pas comment, si on pourrait donner un exemple. C'est comme si, imaginez, nous on est ignorants, par exemple, dans la mécanique d'une voiture. Et t'as un mécano qui vient à côté de toi qui dit attention, ça tu vas mettre, ça tu vas pas mettre, ça tu mets dans tel endroit, ça tu mets dans tel endroit. Tu es reconnaissant, parce qu'il te dit, attention, tu sais, si t'avais mis ça ici, juste t'avais modifié un trou, au lieu de mettre là, au lieu de mettre l'huile ici, tu la mets à côté, t'aurais esquinté ta voiture. Ouais, moi, je connais rien, moi. Moi, je vois des bouchons, j'ouvre, j'en sais rien. D'accord? Quand t'as un mécanicien qui est à côté, qui te dit, attention, ne te trompe pas. T'es reconnaissant. Tu dis merci. Ce qui va expliquer ici, c'est pourquoi là, dans la Torah, il y a matière à poème et il y a matière à reconnaissance. Parce que quand on étudie la Torah et qu'on est conscient comment, par un petit détail, on aurait pu tout capoter. Il suffisait juste de prendre avec la main droite, avec la main gauche, avec la main droite, etc. On se dit, mais attends, quelle chance on a qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les détails de la Torah avec par nos Chachamim, et que grâce à ça, on a exactement la notice, le mode d'emploi, on sait exactement où mettre, quoi mettre, comment faire. Il va donner encore d'autres exemples. Vous allez voir où tout va arriver. Vechen bitfilin kshirot. Si une personne met des tfilin kasher, qu'est-ce qui se passe? Midgalim mochin elyonim zerampi benukva shem mekor achayim lechol alamot. On dit que quand un juif met les tfilin, il amène de l'énergie, de la vitalité, pas seulement pour lui, pour le monde entier, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses grands-parents, pour tout l'homme Israël. Ça, c'est s'il a mis des tfilin qui sont cachers. Ou bedikduk echad, avec un petit détail. Par exemple, une lettre qui est légèrement coupée. Ah, ça va. Par exemple, tu as un chet, tu vois, le chet, il est comme ça. Le petit point ici, il s'est coupé. Celui qui le voit, on peut croire que c'est un hé. Le chet, il est comme ça. D'accord? Le chet, il est comme ça. Et c'est... Donc, si tu as une petite coupure ici, à quoi ça ressemble? Ah, oui, ça ressemble, oui, à un hé. Oui. Quel est le din? Petite coupure comme ça. Les tefilin ne sont pas sous. Tu peux même pas rectifier. Parce que les tefilin, c'est pas comme le Sefer Torah, si y a un problème, tu peux rectifier. Les tefilin, s'il y a un problème dans les tefilin et que ça a déjà été écrit, une fois que la lettre suivante a déjà été écrite, tu peux plus récupérer la lettre d'avant. Et oui, c'est pour ça, vous savez, des fois, on amène les tefilin à faire vérifier, et ils te disent, c'est pas cachère. Tu dis, pourquoi il y a une lettre? Ben, répare la lettre. Non. Parce que, une fois qu'on a écrit la lettre suivante, on peut plus réparer la lettre précédente. On peut la réparer seulement si la lettre était encore cachère. Si la lettre était encore cachère, par exemple, mais qu'il manquait les petites couronnes, comme la lettre était déjà cachère, là, tu peux récupérer. Mais si la lettre n'est plus cachère, comme l'exemple que je vous ai donné, par exemple, il y a une coupure dans la lettre, le ret ressemble à un ré, c'est fini, c'est plus cachère. Ou bien, des fois, ce qui arrive, c'est le contraire. Des fois, vous avez un ré, comme c'est écrit très petit, des fois, avec la transpiration, la chaleur, ou bien si quand c'était mis au soleil, etc., l'encre, elle fond légèrement.
Oh, ça bouge.
Et qu'est-ce qui se passe? Ça bouche le trou, et donc, du coup, ton ré, il devient un ret. C'est fini. C'est plus cachère. Bon. Tu dis, mais attends. Pour une petite tache d'encre, pour même un pas. Millimètre d'encre, même pas. Avant ce millimètre d'encre, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que j'étais en train d'amener de la vitalité, de l'énergie pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour tout le peuple Israël. Et pour une petite tache d'encre, tu me dis que quand je les mets, je fais rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit détail, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on voit que la notion de précision dans la Torah. Je vais illustrer ça avec une histoire magnifique que j'ai entendue d'un rave que je respecte beaucoup. Un rave que j'ai rencontré d'ailleurs là-bas aussi au Kinous HaShlochim. Il s'appelle le rave Eliezer Shem Tov. D'accord? Il y a ce rave-là, qui écrit beaucoup dans un site qui s'appelle Chabad.org, et un site américain. Et il y a aussi un autre rave qui s'appelle Aaron Moss. D'accord? Deux grands rabbanim, très très forts. Et une fois, on leur a posé la question suivante. Il y a une fois une jeune fille qui a posé la question au rave, qui lui a dit, dites-moi, par email, elle a posé la question, elle lui a dit, dites-moi, comment ça se fait que dans la Torah, on est tellement pointilleux? Dans la halakhot. Je crois qu'il y avait une histoire de conversion, etc., qu'elle voulait se convertir avec elle voulait se marier avec quelqu'un qui devait se convertir, mais bon, il y avait un problème et la conversion n'était pas très cachère, et bon, le rav a dit que la halakha, c'est la halakha. Et elle avait du mal à comprendre pourquoi dans la halakha, on est tellement pointilleux. Ça l'a dérangé. Ça peut déranger. Donc elle a posé la question au rav, le rav lui a répondu, elle a renvoyé un mail au rav pour lui dire, écoutez, je comprends toujours pas, pourquoi vous êtes tellement pointilleux dans la halakha. Le rav laisse passer 2 semaines sans répondre. Il répond pas. 2 semaines plus tard, il lui répond. Il lui dit, vous savez, je vous ai envoyé la réponse il y a 2 semaines, mais je me suis trompé quand j'ai écrit votre adresse mail, j'ai oublié d'écrire le point avant .com.
Ah oui, c'est pas d'ailleurs. Ça veut tout dire, quoi.
Et donc, il n'est pas arrivé. Et c'est maintenant que je me suis rendu compte, c'est bon, pour l'histoire, il l'a pas fait, hein. Et je me suis rendu compte que c'est pas arrivé. Il dit, mais ça va, c'est un point, qu'est-ce qu'il y a? C'est un tout petit point. Qui l'a vu, le point? .com. Et ça change tout. Et avec ça, et donc il a commencé la lettre comme ça. J'ai la lettre, hein, parce qu'après de ça, ils en ont fait un livre. Un livre en anglais qui s'appelle Dear Rabbi, cher rabbin, pourquoi je peux pas me marier avec elle? Et en fait, avec l'accord de cette jeune fille, en enlevant le nom bien sûr, ils ont fait tout un livre sur les échanges de mails qu'ils ont eu. Parce qu'après, il y a eu le Khatan qui s'est... Ah oui, il y a eu deux mails, il y a un livre entier, ils en ont fait. Très intéressant. Parce qu'en vérité, dans ce livre-là, c'était des gens très intellectuels et il y a un débat très intéressant, un débat de mails, tu vois. Tu mets les dates, et il répond, etc. Et moi, j'ai trouvé dans ce livre-là, cette lettre intéressante, tu vois. Il commence la lettre en disant, je vous ai répondu il y a 2 semaines, mais vous l'avez pas reçu parce que j'ai oublié le point. Le dic-douc. Le petit point. Ben, c'est ça, c'est exactement ce qu'on dit ici. Et quand on se dit qu'avec un petit point, tu peux tout faire sauter. Tout dépend d'un petit point. Alors, Veilkar, celui qui réfléchit à ça maintenant. N'oubliez pas, on essaye de comprendre en quoi la Torah est matière à poème. Pourquoi quand on lit la Torah, ça nous donne envie de chanter à Kadosh Baruch Hu? Normalement, il n'y a pas de rapport. Normalement, quelque chose de scientifique, la science n'est pas liée à des poèmes. C'est deux domaines complètement différents. Sauf qu'à un moment, même un scientifique qui peut se mettre à chanter, pas spécialement dans la Torah, c'est quand il se rend compte de la complexité de la nature. Même un scientifique, des fois, il peut avoir l'émerveillement du cerveau. Quand il se rend compte, des fois, il va tellement avancer dans ses recherches, il va faire une découverte extraordinaire, des choses extraordinaires. Il peut se mettre à chanter, on a vu même des gens, des scientifiques comme ça, qui sont mis à danser tellement ils ont eu fait une découverte qui les a rendus fous. Pourquoi ? Parce que des fois, on découvre des choses qui nous émerveillent tellement que, waouh, t'es émerveillé et ton cœur, il se met à vibrer. Bien que normalement, on réfléchit avec son cerveau, mais des fois, c'est tellement puissant qu'on se met à danser, on se met à chanter, on est heureux. On voit qu'il y a eu beaucoup comme ça de découvertes qui ont été faites, des découvertes scientifiques, comme la découverte du téléphone, etc., de beaucoup de choses, que à chaque fois la première réaction, c'est une réaction d'émerveillement. On est émerveillé, bien que ça n'a rien à voir. C'est de la science maintenant. Qu'est-ce que t'es émerveillé ? La science, c'est un monde qui est froid. Même dans la science, il y a des moments dans lesquels on réalise que ça nous dépasse et que vraiment c'est très très puissant. Eh ben, il dit, c'est exactement avec ça on va comprendre maintenant pourquoi dans la Torah il y a matière à poème. C'est vrai que si tu prends la Torah de manière sèche, d'accord ? Permis, interdit. Tu dis, bon, ça va, il n'y a pas de quoi s'exciter, c'est rien du tout. Mais quand tu commences à rentrer dans les détails, et tu comprends qu'il y a des détails, qu'il y a une profondeur, et qu'un petit détail peut tout faire changer, et tu comprends le détail, on t'explique pourquoi ce détail peut tout faire changer. On t'ouvre le capot, on t'explique, voilà, ici c'est ça, ici t'avais mal à l'aise, si t'avais mis la voile, ce qui aurait se passé, ça c'est positif, ça c'est négatif. Quand on t'explique, t'es émerveillé. T'es tellement émerveillé que du coup, la science, cette science qui normalement est un monde qui est froid, tu vas te mettre à être émerveillé, et donc du coup, là, c'est là qu'on voit que la limite qu'il y a entre la Torah et le poème est une limite qui est finalement très fine. Parce que quand on arrive à l'émerveillement, automatiquement, on arrive au poème. Claude, il t'expliquait avec ça que c'est pas si banal que ça quand on parle de poème par rapport à la Torah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Parce que le monde de la science et le monde du cœur peuvent en vérité se lier beaucoup plus rapidement qu'on le pense. On appelle ça l'émerveillement du cerveau. Itpa'alut, en hébreu, ça s'appelle ça Itpa'alut Asechel. Ça veut dire l'émerveillement du cerveau. Il y a des gens comme ça, qui sont des fois, qui n'ont pas du tout de sentiment. Ils ne savent pas ce que c'est avoir un sentiment. Mais l'émerveillement du cerveau, ça, ils peuvent l'avoir. Bon, d'un autre côté, il y a des gens que, pour eux, ils ont l'émerveillement du cerveau et du cœur. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et moi, j'ai connu des gens comme ça, la yeshiva, des fois des rabbanim. Des fois, des gens, vous savez, surtout chez les Ashkenazes, avec tout ce qu'ils ont enduré dans la Shoah, etc. Des fois, tu as des gens qui montrent très très peu leurs sentiments. Tu peux être un an avec lui à la yeshiva et tu n'as jamais montré un sentiment. Rien. Rien du tout. D'accord ? Non, mais c'est vraiment des choses qui. Nous qui venons d'un monde séfarade, et on en a parlé jeudi matin dernier, ça peut interpeller. Tu dis, attends.
Ils sont tristes.
D'accord ? Non, c'est pas qu'ils sont tristes, c'est froid comme ça, c'est froid. Ouais. Mais en vérité, tu comprends. Qu'après un moment, tu comprends que c'est vrai qu'ils n'arrivent pas toujours à avoir le sentiment dans le cœur, mais l'émerveillement du cerveau, ça, on peut l'avoir. Vous savez ce que raconte la Gemara ? La Gemara raconte qu'il y avait une fois un maître qui parlait pas beaucoup, mais ses élèves, en le regardant, ils étaient capables de savoir s'il venait de découvrir un ridouche. Pourquoi ? Des fois, tu le voyais comme ça en train de réfléchir, et à un moment, son visage, il s'illuminait, il devenait lumineux. Et là, les élèves disaient, le Rav, il a trouvé un grand ridouche, et il venait le voir et dire, Rav, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Il s'appelait Ravuna. Très, très grand Rav, un des plus grands maîtres de la Gemara, Ravuna. Et on dit que Ravuna, à son visage, on était capable de savoir ce qu'il avait découvert. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'émerveillement du cerveau. L'émerveillement du cerveau. Donc là, avec ça, ce qu'il veut nous montrer ici, c'est que la limite qu'il y a entre le cerveau et l'émerveillement, donc le cerveau, la science et le poème, finalement est une limite qui est très très fine. Parce que très rapidement, quand tu te rends compte de la complexité de la chose, qu'est-ce qui se passe ? Tu te mets à chanter. Donc la Torah peut être un poème. Donc si on analyse ça de cet angle, quelque part, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quelque part, hein, c'est pas si mal que ça, David s'est mis à chanter. S'il s'est mis à chanter en étudiant la Torah, quelque part, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est émerveillé ? Donc c'est peut-être bien ? Alors pourquoi la Gemara dit que c'est une punition ?
C'est une interprétation, non ?
Alors ça veut dire quoi ? C'est bien d'être émerveillé. C'est beau d'être émerveillé. Ce qui veut t'expliquer ici, c'est que même si tu as une personne qui n'a pas de sentiment, une personne qui réfléchit, à un moment, il doit arriver à un émerveillement. Il doit être impressionné. Tu sais, c'est comme des fois tu réfléchis dans le business. Tu réfléchis dans le business, tu as un problème et tu cherches une solution. Tu cherches, à un moment tu trouves une solution. La solution est tellement belle que t'as envie de danser, t'es heureux. Le cœur, il parle pas pour l'instant, c'est que le cerveau. Parce que le cerveau, quand tu le pousses à fond, quand tu le pousses jusqu'au bout, à un moment, il doit avoir un émerveillement. Donc c'est bien d'avoir un émerveillement. Donc c'est bien de chanter. Donc finalement, en quoi c'est une punition qu'on dit que le roi David a chanté. D'accord ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ici maintenant. Alors il dit, vous voyez comment on a pris un petit détail de la Gemara, bon, une histoire qu'on a pu dire, c'est que ça nous change, il a chanté, il a pas chanté, bon, et que ça nous change rien. Il te dit non, attention, dans ça, avec ça, on va essayer de comprendre maintenant quelle est la teneur de la Torah, et qu'est-ce que c'est la Torah, et qu'est-ce que c'est l'émerveillement, on va découvrir beaucoup de choses. Donc, Vilkar, c'est pour ça. Alors on va prendre les mots, Vilkar, j'ai tourné la page, je crois.
322, non,
320. Allez, prends les mots. David, est-ce qu'il nous reste du Lechaïm dans la réserve?
Certainement.
Alors, vas-y, amène-nous quelque chose.
Mais ça devrait, à mon avis, ils ont voulu le déstabiliser en...
Razak. Ils ont voulu le quoi?
Le déstabiliser. Hachem a voulu le déstabiliser en disant ça.
Le déstabiliser, ça veut dire que tu... Mais Hachem, c'est la vérité.
Non, mais par rapport à certaines personnes qui avaient... qui étaient contre le roi David. Ça leur a donné des forces en plus. Regardez comment il respecte la Torah, il vient sans...
Ah, tu veux dire déstabiliser ses ennemis ou le déstabiliser à lui?
Le déstabiliser à lui, lui.
Donc c'est pas bien. Oui. Mais pourtant, c'est bien qu'il appelait la Torah des chansons.
Oui.
Alors, c'est bien ou c'est pas bien?
Oui, mais ça donnait une force à ses adversaires.
Ah, toi tu veux dire la punition, c'est la force à donner à ses adversaires.
On l'a fait bien.
C'est une bonne réponse. J'ai pas vu ça de cet angle-là, mais bon, ici, il va amener ça d'un autre angle.
Regardez comment il respecte la Torah. Torah, comme un truc comme ça, comme ce qu'il lui a donné. C'est-à-dire, même dans la punition, on dirait qu'il lui a peut-être donné comme une part de... qu'il pouvait avoir une mitzvah ou quelque chose comme ça.
Oui, mais encore une fois, la question qu'il pose ici à Admor Hazaken, c'est que c'est pas une punition. C'est la plus belle chance qu'on peut avoir, hein, quand tu étudies la Torah, et à un moment, t'es tellement émerveillé que tu te mets à chanter. C'est beau! C'est beau d'en arriver là!
Ça aurait été autre chose!
Voilà, Azak.
Peut-être que ça aurait pu être autre chose.
Mais ce qui veut dire, c'est beau d'en arriver là! Imagine-toi, tu viens à un cours, t'es tellement émerveillé, tu sors, t'as envie de chanter! C'est beau!
Parce que non, mais peut-être tellement il était grand qu'il allait mériter quelque chose de. Peut-être de mieux.
Bon, on va expliquer. Il va développer plusieurs points dans la suite. Vous savez, on dit que vous avez remarqué quand on voit les Fabringen du Rabbi, pour ceux qui voient les Fabringen du Rabbi, qu'on montre le. Ah, c'est bon, merci. On voit que toujours le Rabbi, il disait un Dvar Torah et après il y avait des chants. Dvar Torah, des chants, Dvar Torah, des chants. Pourquoi on chantait? Quoi ça sert de chanter? D'accord. Parce que quand on chante, on est émerveillé de ce qu'on a écouté et on dit que dans la Chassidoute, on explique que le chant permet à la personne d'intérioriser ce qu'il vient d'étudier. C'est très important le chant dans la Chassidoute. Donc, vous voyez, quand on parle du chant, alors on va dire le Chaim. T'as servi ici
Oui, j'ai...
Allez, le Chaim. Le Chaim.
Excuse-moi, pardon.
Je vous disais que quand on était chez le Rabbi, on voyait la notion qu'on chantait beaucoup. Parce que dans la Chassidoute, on explique que grâce à la chanson, le Nigoun, dans un Fabringen, on chante. Pourquoi on chante? D'accord? Pourquoi avant de dire un Dvar Torah, on va dire aïe aïe aïe? En plus, c'est toujours la même chanson. Alors, non, mais c'est pas obligé, on peut changer de chanson. Hein. Alors.
À mon avis,
pas du tout. C'est très simple. Parce qu'on dit, on explique en Chassidoute que la chanson permet à la personne de se dépasser. La chanson, c'est la plume du cœur. Quand une personne y chante, ça lui permet d'exprimer son cœur. Donc, c'est bien de chanter. Encore plus quand tu chantes après avoir compris quelque chose, que t'es tellement heureux d'avoir compris ce que t'as compris que tu te mets à chanter, c'est magnifique.
Alors en fait, ce que t'es en train de nous dire, c'est je chante parce que tu es satisfait.
Oui. Non, c'est pas satisfait, c'est tu chantes, c'est que quelque part, en tout cas moi j'ai vu ça chez le Rabbi, quand on chantait, c'était naturel.
Oui, non, d'accord.
C'est-à-dire
oui.
Tellement le moment était puissant, que le chant était naturel.
Et là, donc, on voit David.
Oui,
le chant. C'est pas une comment ça s'appelle
Non,
pas spécialement, non. C'est le résultat de la compréhension. C'est quand j'ai compris, alors je suis émerveillé. Je suis émerveillé de quelque chose. D'ailleurs, vous savez, on dit entre les chansons les plus fortes, c'est les chansons dans lesquelles il n'y a pas de parole. Pourquoi?
On les retient plus vite.
Non, c'est très simple. Vous savez pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure que la chanson, c'est la plume du cœur. Mais le fait de dire des mots, quelque part, ça limite la chanson. Ça limite la chanson aux mots.
Exactement.
Mais on dit que quand dans la chanson il n'y a pas de mots, c'est le cœur qui parle en direct, en live. Et plus la chanson est simple, et plus la chanson est sans mots, et plus c'est le cœur qui s'exprime.
Plus international.
D'accord. Non, mais on le voit même dans les refrains. D'accord. En général, qu'est-ce qu'on retient dans une chanson?
Tout le monde reprend le refrain.
Voilà. Qu'est-ce qu'on retient d'une chanson? Qu'est-ce que les gens retiennent d'une chanson? Le refrain. Qu'est-ce qui fait qu'une belle... Non, mais c'est vrai. C'est pour ceux qui s'y connaissent dans la musique. J'aime beaucoup la musique. Qu'est-ce qui fait que les gens accrochent une chanson et les concerts, etc. et tout? Quand il y a un beau refrain, bah, ça y est, c'est fini. On se dit, ah, ça, c'est une belle chanson pour les concerts. Parce que le refrain, c'est important. Le refrain, c'est, en général, dans le refrain, il n'y a pas de parole dans un refrain. C'est fait exprès. Parce que moins il y a de paroles, et plus c'est le cœur qui s'exprime. D'accord? Donc, ce qu'il dit ici. Là, maintenant, on va expliquer pourquoi David Ameller, en quoi c'est considéré, c'est une punition. Alors qu'a priori, c'est pas du tout une punition. Donc, il continue. Vous misez nid bonen, de ça, on va comprendre. Alors, dans les mots où on est, à la ligne qui commence « Oumise », au deuxième tiers de la page. « Oumise nitbonen » de là on va comprendre « Gdoulat omek marshavto itbarech » la grandeur et la profondeur de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. « She'u biprinat blikvul vetachlit » que la pensée d'Akadosh Baruch Hu est illimitée. « Uma'alata le'enketz vetachlit al ma'alat chayut kol olamot shekol chayutam shofer medigduk echad mimena » Tu t'imagines comment Akadosh Baruch Hu est puissant? Et comment un petit détail peut tout faire changer? Quand on imagine des choses comme ça, automatiquement on se dit, mais c'est extraordinaire la complexité de la nature, la complexité comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Sheu nimshach mimekoro, sheu omek marshavto itbarer, kmo sheadam nimshach mimkol derech mashem, vekonadam atikunim itraraba. D'accord, ça j'explique à l'oral. Maintenant il dit, vezot, voilà, je suis au point, vezot. Vezot, aita, simchat, les initiales c'est David, Ameler, Alav, Ashalom. Ça c'était la simcha de David, Ameler, Alav, Ashalom. Shaya Mezamer ou Meranel. Pourquoi David Ameler? Dalet, t'as les initiales ici. Simchat, Dalet, He, Ain, He. David Ameler, Alav, Ashalom. Vous savez? Vezot Aïta. Vezot Aïta, Simchat, David Ameler, Alav, Ashalom. Ça, c'était la Simchat de David Ameler, Alav, Ashalom. Shaya Mezamer ou Meranel, qu'il chantait. Et que constamment, c'est pas seulement qu'il chantait et que faisait des poèmes. Les sameach libo be'esek haTorah be'et sarato pour réjouir son cœur par la Torah be'et sarato quand il souffrait. Là, c'était le moment dans lequel David Ameler il souffrait beaucoup de ses ennemis. Il avait des ennemis partout, David Ameler. Il avait des ennemis à l'extérieur parce que c'est lui qui a fait toutes les guerres qu'on a eues, la majorité des guerres qu'on a eues pour conquérir la terre d'Israël, c'est David Ameler qui les a fait. Le mont du Temple, c'est lui qui l'a conquis. Tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Mais il avait pas seulement malheureusement des ennemis de l'extérieur, il avait aussi beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Et ceux-là, c'était les pires. Le roi Shaoul, c'était avant encore qu'il devienne roi. Même après qu'il est devenu roi, il avait beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Il y avait des gens qui parlaient, ils disaient comment, ce petit paysan, il va venir nous raconter des lois maintenant, celui qui va nous reprendre la halakha, comment ce petit paysan, ce petit chanteur à l'harpe, il va venir, vous savez, imaginez comme, c'est comme le truc avec la flûte, là, c'est comme
Il y a une raison pourquoi c'est écrit comme ça, David Ameler, Alav
Shalom. Non, c'est comme ça, c'est l'initial. Dans la Gemara, c'est souvent comme ça. David Ameler, Alav Shalom. Non, je connais pas de raison. Et donc, les gens se moquaient beaucoup de lui. Ils avaient du mal à accepter son autorité. Alors, bien sûr qu'il a assis son autorité parce que c'était plus fort, mais ils avaient du mal à accepter son autorité. Et on dit que David Ameler, qu'est-ce qu'il faisait pour, ça faisait beaucoup de peine, parce que c'est un homme. Et un homme, quand il voit qu'on lui crache dessus, qu'on se moque de lui, etc., même si concrètement il reste le patron et que bon, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à partir, mais ça fait de la peine, c'est un homme, ça le touche. Qu'est-ce qu'il faisait pour oublier sa souffrance? Il étudiait la Torah. Et il étudiait la Torah, il poussait son étude à max, jusqu'à ce qu'il arrivait à un émerveillement du cerveau. Et quand il arrivait à cet émerveillement du cerveau, à ce moment-là, il oubliait tous ses soucis. La majorité des Tehillim, c'est les Tehillim que le roi David a fait, justement, quand il poussait son étude à maximum. Et quand il poussait l'étude à maximum, là, il arrivait à une extase, et là, il se mettait à composer un Tehillim. Ça veut dire qu'en vérité, le chant du roi David, a priori, peu importe, des fois il l'étudiait seul, des fois il l'étudiait... Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'étude de la Torah, c'était une manière pour lui d'oublier ses soucis. Quand il était tellement plongé dans les soucis et dans la peine de savoir que, même dans ses propres femmes, il y avait des femmes qui se moquaient de lui. Tout le monde se moquait de lui. Toute sa vie, il y a des gens qui se moquaient de lui. Et qu'est-ce qu'il faisait pour oublier cette souffrance, pour rester le roi? Pourquoi un moment il n'a pas dit, bon, écoutez, jette l'éponge, prenez la royauté, moi je veux partir, je vais ailleurs et c'est fini. Quand je vais en Australie, laissez-moi tranquille. Pourquoi il n'a pas eu cette réaction? Depuis qu'il est né, il était poursuivi. Chez lui à la maison, il était poursuivi. Après, il a grandi, c'était le roi Shaoul qui croyait qu'il voulait lui prendre son poste, il a poursuivi. Il voulait le tuer! Il a dû se cacher dans des grottes. Après, il a pris le poste de roi. David Ameller, Baruch HaShem, il a pris le poste de roi. De l'intérieur, il était poursuivi. Une fois que de l'intérieur, c'est un peu calmé, de l'extérieur, on est venu. De l'extérieur, c'est calmé, de l'intérieur, il revenait à la charge. Ils se moquaient de lui, ils arrêtaient pas à chaque fois. Chaque fois que David Ameller disait une halakha, on lui rappelait son passé. Par exemple, dès qu'il voulait parler une halakha du mariage, j'ai dit oui, toi, avec tes histoires avec Bathsheba, qui tu es pour nous parler du mariage? Non, concrètement, il était obligé de l'écouter parce que c'était le roi. Ça lui faisait de la peine. Qu'est-ce qu'il faisait pour oublier sa souffrance? Étudier la Torah. Et qu'est-ce que, pas seulement il étudiait la Torah, il étudiait la Torah, on a dit, avec l'émerveillement. Et quand on étudie la Torah avec l'émerveillement, quand on plonge dans l'étude de la Torah, automatiquement, tu peux avoir n'importe quel problème, tu plonges, tu oublies tout. La Gemara a dit comme ça. Il y a deux versions dans la Gemara. La Gemara a dit, celui qui a mal à la tête, qui étudie la Torah. Il y a une autre version dans la Gemara qui dit, celui qui a mal dans tout son corps, qui étudie la Torah. Alors, le commentaire, il pose la question, il dit, mais celui qui a mal à la tête. D'accord? Il peut pas étudier la Torah. Parce que, la Torah. Il faut la tête concentrée. Alors comment on peut comprendre ce que la Gemara a dit, que celui qui a mal à la tête, il faut qu'il étudie la Torah? C'est pas possible, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? La Gemara, elle répond que des fois, pour enlever le mal de tête, pour enlever le mal qu'on a dans le corps, la solution la plus forte, c'est l'émerveillement. Que des fois, tellement tu es émerveillé de quelque chose, que tu oublies ce qui s'est passé. Le plaisir peut être tellement fort, que tu oublies le mal que tu as d'un autre côté. Mais ça, c'était le secret du roi David. Le roi David, quand il chantait, ça veut dire qu'il poussait son étude tellement forte qu'à un moment, il rentrait dans une extase, il se mettait à chanter tellement il était émerveillé. Moi, quand je lis cette lettre-là, en tout cas pour moi, ça m'a donné une lecture complètement nouvelle des Tehillim. Jusqu'à maintenant, quand je lisais les Tehillim, je disais, bon, c'est quelqu'un qui aime bien chanter. C'est des beaux poèmes, mais c'est un poème. Bon, un poème, c'est un poème. Il y a des gens, vous savez, en général, qui c'est qui compose des poèmes, honnêtement? Qui c'est qui compose des poèmes en général? Bon, c'est les gens qui sont un peu lunatiques, un peu comme ça, d'accord? C'est vrai, d'accord? C'est la vérité. Un peu illuminé comme ça, un peu illuminé sur les bords. En général, c'est ça les gens qui composent les poèmes. Il y a des exceptions, d'accord? C'est des rêveurs, voilà, des gens qui ont une vision idyllique du monde, enfin, peu importe, d'accord? Mais bon, c'est pas des gens forcément comme nous. C'est des gens qui sont différents. Donc quand on lit les Tehillim, on voit à chaque fois les mots que le roi David utilise, qui sont des mots vraiment, des mots très poétiques. Alors bon, on peut se dire, bon, c'est magnifique ce qu'il a fait, c'est une force extraordinaire. Mais on comprend pas comment ça se fait qu'on nous dit que les Tehillim, c'est une puissance extraordinaire, et dès qu'il y a une personne qui est malade, qu'est-ce qu'on fait? Tehillim. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un poème. Oui. Tu dis la Torah, c'est pas mieux? En quoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce poème? Et c'est là, maintenant avec cette lettre, ça m'a permis de comprendre que c'est pas, les Tehillim, c'est pas un poème. Les Tehillim, c'est le résultat de l'émerveillement de l'étude de la Torah du roi David. Ça veut dire que pour écrire ça, il a d'abord dû étudier la Torah avec d'une manière tellement forte que ça lui a permis d'oublier tous les soucis qu'il avait de l'intérieur et de l'extérieur et que ça lui a permis de rentrer dans une extase vers Akadosh Baruch Hu. Là, quand tu me dis ça, c'est différent. C'est pas un illuminé qui a écrit un poème.
Quand tu lis les Tehillim, tu reproduis l'émerveillement?
Non. Mais ça veut dire que tu relis un texte, le résultat de ça. Donc tu tapes directement dans le résultat. Là, c'est différent, tu comprends? C'est pas la même chose. C'est pas un poème qui a été écrit par un illuminé, Chas v'Shalom. C'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui a poussé son cerveau au maximum. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à être émerveillé de ce qu'il étudiait. À tel point qu'il a oublié les soucis. D'accord? Donc, on peut comprendre pourquoi, quand nous aussi, quand on a Dieu préserve des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Tehillim. On se dit, attends, le roi David, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la Torah, il a poussé au maximum, il est arrivé au Tehillim. C'est ça, les Tehillim. Donc, nous aussi, quand on a des soucis, on lit les Tehillim.
Ces soucis, il les a écrits quelque part.
Très peu. Il y a des Tehillim où il raconte un peu. En tout cas, dans le Tehillim, quand il raconte, à chaque fois, il dit, je te remercie Dieu de m'avoir fait oublier ça et ça et ça et ça. Mais dans la majorité des Tehillim, il raconte même pas. Il raconte même pas ce qui s'est passé. Alors, dans la majorité des Tehillim, qu'est-ce qui se passe? Il te raconte juste le début. Il te dit, l'amnatzer, mizmor les David, il te dit, suite après cette histoire. Il te raconte pas l'histoire. Quelque part, il a oublié l'histoire. Il te raconte l'extase dans laquelle il est, comment c'est extraordinaire. Le sentiment dans lequel il est en train de vivre. Et vous savez que dans la Gemara, il y a énormément de halachot qu'on apprend des Tehillim. Plein de halachot. Par exemple, pour ceux qui viennent au cours du mercredi matin en ce moment, on parle sur l'importance de dire la vérité. Dire la vérité. Quand on voit dans la Torah, les deux versets qui parlent de l'importance de dire la vérité, un verset il parle pour les juges, l'importance pour le juge de dire la vérité, et un verset il parle sur l'importance de dire la vérité dans les affaires. Mais non, ça c'est les affaires et les juges. Mais il y a plein de choses qui sont en dehors de ça. Par exemple, est-ce que je vais dire la vérité à ma femme? Est-ce que je vais dire la vérité à un ami? Ce qui n'est ni business, ni juge.
Je dois dire la vérité à un malade. D'accord?
Est-ce que je vais dire la vérité à un malade? Et tout ça, c'est des questions. Il n'y a pas de pasouk dans la Torah qui en parle. D'où la Gemara apprend la réponse à la question? Dans Tehillim. Il y a un psaume entier dans le Tehillim, dans lequel le roi David, il parle de la vérité. Le psaume 110.
Entier,
il parle que de la vérité. L'importance de dire la vérité. Et de là-bas, de ce psaume-là, la Gemara a appris beaucoup d'alachot sur la manière comment on doit dire la vérité. Plein d'alachot. Bon, pour ceux qui viennent mercredi matin, c'est une série de 6 cours, donc on a fait que 3 cours dessus. Ça veut dire quoi? Tu veux dire, mais attends, les Télim, c'est un poème. Depuis quand d'un poème, on apprend des alachot? Non, les Télim, c'est pas un poème. Les Télim, justement, c'est l'issue de l'émerveillement de l'étude de la Torah du roi David. Quand on comprend ça, on comprend qu'a priori, c'est pas du tout une punition le fait que le roi David a appelé la Torah des chansons. C'est au contraire, c'est la plus grande louange qu'on puisse avoir. Alors comment on peut comprendre ce que la Gemara a dit, que le fait que le roi David a appelé la Torah des louanges, c'est quelque part une punition? C'est pas du tout une punition. C'est la plus belle des bénédictions qu'on puisse avoir. On se souhaite tous ça d'arriver un jour que tellement je kiffe mon étude que je me mets à chanter. C'est magnifique. Comment la Gemara peut dire que c'est une punition? Vous comprenez la question? Quand on commence à développer, là on voit qu'on a un vrai problème. C'est beau de chanter. Ah, continue comme ça. Dis maintenant. Donc je vais reprendre Vezot Aïta. Vezot Aïta, le point. Vous avez le point? Vezot Aïta Simcha David Amelech Alav Shalom. Ça c'était la Simcha de David Amelech Alav Shalom, que son âme repose en paix. Shaya Mezamer ou Meranen, qu'il chantait et qui composait des poèmes. Lesa Meach Libo, pour réjouir son cœur. Be'esek HaTorah Be'et Sarato. Et Sarato, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour se réjouir de l'étude de la Torah au moment où il était dans son malheur. Ça, dit l'Admor HaZaken, c'est très bien, c'est une grande louange. Alors, où est la punition? L'avis explique où est la punition. Il dit, ar seulement, ma shaya mishta be'ar piteilat haTorah, be malatazo. Qu'est-ce qui nous a dérangé? Ce qui nous a dérangé, c'est pas que le roi David est arrivé à un tel niveau qu'il s'est mis à chanter. Non. C'est que le roi David est arrivé à un niveau, comme il dit ici, que Shaya David Mishtaber Bitilat Torah Bemalatazo, ça veut dire quoi? Ve'amar Zmirot Ayulu Chukera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David Ameler, il a dit, la Torah c'est mes louanges, ça veut dire quoi? Dans le sens, j'ai compris la profondeur de la Torah. C'est ça ce qui a dérangé Akadosh Barouh. Là, il y a eu une nuance qui est pas bonne.
Ah, un peu d'orgueil.
Voilà. C'est qu'il y a eu un petit peu d'orgueil, comme si que j'ai compris ce que c'est la Torah. Lui dit, ah, j'ai compris, je suis émerveillé de la Torah. Comme dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Hein, quand t'as le mécano qui t'explique, tu dis, ah, j'ai compris, presque t'as envie d'enseigner au mécano, tu vois. Attends, allez, doucement. T'as rien compris, papa. T'as fait un petit cours, là, juste pour te faire kiffer, mais t'as rien compris. C'est ça ce qui a dérangé Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, on comprend que la nuance est beaucoup plus fine. C'est pas que Akadosh Baruch Hu a quelque chose contre le fait qu'on chante quand on étudie la Torah, ou qu'on est émerveillé dans son cerveau. Au contraire, c'est magnifique quand on est émerveillé. Où est la punition? C'est que David Amelech, à un moment, il a eu un brin d'orgueil. Je sais pas si on peut appeler ça de l'orgueil. Comme si que j'ai compris ce que Dieu a dit. J'ai compris la Torah. J'ai compris. Là, la Torah, là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ne'enash alze. Dieu lui a puni. Ve'amarlo à Kadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit, Smirot kariyaleu. Tu crois avoir compris la Torah à tel point que tu te mets à chanter. Ça y est, j'ai tout compris. T'es sûr que t'as tout compris? Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, a réprimandé David Ameler pour lui dire, sache que ce que tu as compris, t'es loin encore de comprendre la profondeur de ma pensée. Et qu'en vérité, personne ne peut comprendre la profondeur de ma pensée. Je pense que le meilleur qui exprime ça, c'est Maïmonide. Maïmonide, il dit comme ça. Il dit que la plus grande compréhension, c'est quand on a compris qu'on n'a pas compris.
Tu as compris que tu ne comprendras jamais.
Tu as compris que ça te dépasse.
Là, tu as réveillé Serge.
Ah, je te réveille là. Dis les chahines, Serge. Rambam, il dit comme ça. Non, on a la réponse là. Rambam, il dit je
questionne. On est à ça pour qu'on continue à essayer.
Mais non, c'est le truc. C'est que t'as le khmar qui dès le départ il dit j'ai pas compris. Ça c'est un khmar.
Non.
T'as l'intelligent qui a compris, mais qu'à un moment il va pousser tellement la compréhension qu'il va comprendre que en vérité ça le dépasse. Donc il a compris que ça le dépasse. C'est pas que il dit ça me dépasse et c'est tout. Ça, tout le monde peut le dire. C'est qu'il a compris que ça le dépasse. Il a compris que c'est quelque chose qui est plus puissant que lui.
Malgré mon intelligence,
malgré ce que j'ai compris. J'ai compris qu'en vérité, le sujet est beaucoup plus puissant que ça. Ça, quand on étudie la Torah, plus on s'approfondit dans la Torah, et plus on voit que ça nous dépasse. Moi, je donne toujours cet exemple. Que quand on est à la Yeshiva, quand on étudie la Gemara, tu lis la Gemara une première fois, tu la comprends, t'as compris. Tu lis une deuxième fois, ah, tu commences à comprendre que t'as pas compris. Tu lis une troisième fois, d'accord, tu trouves des nouvelles questions. À la fin, en général, je vous dis la vérité, hein, en général, quand on termine d'étudier la Gemara, bien sûr qu'on a compris, je vais pas dire qu'on n'a pas compris, mais tu comprends finalement que le sujet, tu ne... Pas tu le maîtrises pas, mais il te dépasse. Plus tu avances, et plus tu comprends qu'il te dépasse. Le fait de comprendre que tu n'as pas compris, c'est une preuve que tu as vraiment compris le sujet. Et je me rappelle quand on était à la yeshiva, dès qu'on venait voir le rav, on lui disait, ça y est, on a compris.
On est rassuré alors.
Bien sûr. Le rav, je me rappelle quand on venait le voir à la yeshiva, quand on lui disait, ça y est, on a compris. D'accord? Il dit, si vous croyez que vous avez compris, c'est que vous avez rien compris.
C'est que vous faites fausse route.
C'est pas fausse route, c'est que c'est superficiel. Et quand tu vas se dire, ouais, j'ai compris. Attends, viens. Rentre dedans, en profondeur.
Tu comprends le chat.
Quand tu rentres dedans, tu comprends ou tu comprends pas. Et c'est ça peut-être la petite erreur. C'est pas une erreur, c'est la punition du roi David. C'est que le roi David s'est mis à chanter. Pourquoi il s'est mis à chanter?
Il a eu un émerveillement.
Il s'est mis à chanter parce qu'il a eu un émerveillement en croyant qu'il a compris. C'est là la nuance. Il dit non. L'émerveillement doit pas être parce que tu crois que tu as compris. L'émerveillement doit être parce que tu as compris que tu peux pas comprendre. Ah, il a compris là.
Mais il faut essayer de comprendre.
T'as compris que t'as pas compris? Ou t'as pas compris que t'as compris?
J'ai compris, j'ai pas compris.
Alors. Mais c'est ce qu'elle dit aussi,
Laurent. Parce qu'il y a des gens qui ont pas compris qu'ils ont compris. Non, pas du tout.
T'es arrivé à un stade de l'étude, c'est
pas le but ultime, c'est que le fait de comprendre la complexité, c'est extraordinaire. C'est comme les gens qui font médecine, par exemple. Dès le départ, tu peux dire, bon, le corps humain, on comprend rien. Ouais, mazal tov. D'accord? Mais quand t'as un médecin qui te dit ça, qui te dit, lui, il a fait médecine, tu comprends? Le corps humain, il le connaît par cœur. Et qui te dit, après tout ce que j'ai étudié, je suis arrivé à la conclusion que c'est extraordinaire et que ça me dépasse, c'est pas la même chose que si moi je vais dire, le corps humain, je comprends rien, parce que moi je connais pas le corps humain. Mais quand t'as un médecin qui étudie le corps humain et qui te dit, ça me dépasse, tu dis, waouh! Si lui dit ça me dépasse, c'est qu'il a vraiment compris et qu'il a compris que ça le dépasse.
Tu peux dire qu'il est médecin, mais il n'est pas médecin.
Pas du tout. Au contraire. Je me souviens ce qu'on raconte. On raconte qu'il y avait une fois un docteur américain qui était spécialisé dans la main. Il était dans la main, dans toutes les phalanges, toutes les veines, dans la main. Et on raconte qu'une fois, c'est une vraie histoire. D'accord? On raconte qu'une fois, tellement il connaissait tout ce qui se passe dans la main. C'est extrêmement complexe.
Spécialiste.
Une fois, il s'est mis à réfléchir à la complexité de la main. Et c'est lui-même qui le raconte dans un magazine. Tellement il a réfléchi à la complexité de la main, que pendant quelques minutes, sa main s'est paralysée. Parce que nous, c'est automatique. Tu vois, c'est automatique, on bouge la main, etc. On réfléchit pas. Quand tu réfléchis à la complexité, tellement il a réfléchi, tellement il était émerveillé que c'est impossible, que son cerveau a arrêté pendant quelques minutes d'envoyer le signal. Il n'arrivait pas à bouger sa main. Et qu'après, il s'est calmé un peu et c'est revenu. C'est-à-dire qu'en vérité, ce docteur-là, il est arrivé à la conclusion à ce moment-là qu'il a compris qu'il comprend pas. Il a compris que ça le dépasse. Il a eu un émerveillement extraordinaire. Non, c'est pas qu'il y a des choses à apprendre. Non, c'est qu'à un moment, tu comprends que ça te dépasse. Tu comprends que c'est puissant. Tu comprends que t'es limité. Tu comprends que ton cerveau qui est limité pourra pas atteindre l'illimité. Et que tu es conscient que tu touches ici à quelque chose qui est très puissant, que tu pourras jamais comprendre de tous les sens. Et ça, c'est peut-être la punition du roi David à ce moment-là, dans ce psaume-là. C'est que, à ce moment-là, l'émerveillement qu'il a eu, c'est qu'il a cru qu'il a compris. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit non, ton émerveillement ne doit pas être que tu crois que tu as compris. Ton émerveillement doit être du fait que tu comprends que ça te dépasse. Voilà comment on peut expliquer.
Pourquoi on parle de punition?
À son niveau, c'est une punition. Que comme il s'est trompé, comme on l'a dit tout à l'heure, il a mis sur l'estrade au lieu de porter. Alors Dieu, à son niveau, c'est une punition pour lui.
Il a pas compris encore. Justement, c'est pour ça qu'il a fini. On va pas y arriver, mais il a compris qu'il a le dépasse.
Non. Là, à ce moment-là, non. Il a compris qu'il a compris. Non, il a dit, c'est beau, j'ai compris. Il s'est mis à chanter. Dieu lui dit non. Faut pas chanter parce que t'as compris. Faut chanter parce que t'as compris que ça te dépasse. La nuance est très fine, hein. Très très fin. C'est-à-dire que dans tous les cas, on parle de quelqu'un ici qui maîtrise son sujet à fond et qui vit son sujet. C'est-à-dire cela, David Ameller, il est en plein dedans, il est à fond dedans. Mais il y a eu une petite erreur à la fin. Sur un cas, sur un des techniques, il y a eu une petite erreur, c'est que son émerveillement n'était pas du fait que ça le dépasse, mais son émerveillement était du fait qu'il a cru qu'il a compris. Là, Zmirot a eu l'ur, c'est dans le psaume 119, il y a une partie du psaume 119. Zmirot a eu l'ur au Kerabaz de Mouraï. D'accord, dans l'alphabet.
C'est le grand
dans la lettre Zayin. Zmirot Aïlou Koukérin. C'est l'Agmara Sota qui raconte toute l'histoire. Donc il dit comme ça. C'est pour ça qu'il dit que le Harizal, ici il va ramener une histoire du Harizal, il dit que le Harizal, bien que le Harizal connaissait parfaitement ce qui se passe dans la Torah, et connaissait les profondeurs de la Torah, il n'aimait pas les gens qui venaient qui disaient on a tout compris. on a tout compris, voilà. Telle parole de Torah correspond à tel monde, telle parole de Torah correspond à telle chose, et quand tu fais ça, voilà ce qui se passe. Bien que lui, il connaissait. Mais, en tant que fin connaisseur, il a compris justement que le but de la compréhension, c'est de comprendre que ça te dépasse. C'est l'infini. Vous avez tout compris?
L'expression marocaine, il a tout compris. C'est toujours comme ça. Quand tu parles avec lui, puis qu'il a compris ce qu'il voulait, il a tout compris.
C'est bien ou c'est positif?
Genre, il a compris ce que je voulais dire.
Ah, d'accord. Bon, c'est bien. Bon, nous, on est entre hommes, on n'est pas avec le bon Dieu.
Entre hommes, on peut se comprendre.
Donc, dans les mots. Il dit, Kmosh, je me vais à ma comachère, mais je m'arrête. Alors, Kmosh, alors, non, où je suis dans les mots? Attendez, j'ai pas envie de perdre le fil. Mishum chez Behemet. Je suis à la ligne qui commence par Karit Léou. Vous avez Karit Léou? Mishum chez Behemet, Maalatazo, chez Kola Olamot, Betelin, Legabetik Dukechanumena, Ibrina Tachoraim, chez le mec à Marshala, Kmosh Ketou ma comachère, mais chez Marizal, Almar Azal, Novlot, Rochma, chez Malamitora. Que l'énerveillement qu'on a eu, qu'avec une petite halakha, un petit point, un petit détail, toute la mitzvah va changer, et que ça David HaMelech l'a compris, cet émerveillement-là, ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken, c'est seulement les restes que tu as dans la Torah. Mais en vérité, quand tu avances, tu comprends que même cet émerveillement de ça, de comprendre que la complexité de la Torah, tu comprends que même ça, c'est rien par rapport à l'émerveillement quand tu comprends que ça te dépasse. Je veux dire comme ça. Dans l'émerveillement, il y a deux phases, je vais expliquer. Première phase, c'est tu comprends que c'est extraordinaire, tu dis waouh, c'est magnifique. Donc tu comprends que tu as compris. C'est extraordinaire. Mais ça, dit l'Admor HaZaken, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand tu avances plus loin encore et tu comprends qu'en vérité, ça te dépasse. Et là, tu as un deuxième émerveillement qui est encore plus puissant. C'est que tu as l'impression de toucher à quelque chose qui est plus puissant que toi. Et là, il dit l'Admor HaZaken, l'émerveillement n'a plus rien à voir. Donc l'erreur, la punition que David HaMelech a eu dans ce Tehillim, c'est qu'il a eu un émerveillement de catégorie A. Émerveillement que c'est extraordinaire ce que je viens de comprendre. Alors qu'en vérité, à son niveau, il aurait dû atteindre un émerveillement de catégorie B. Pas c'est extraordinaire ce que je viens de comprendre, mais c'est extraordinaire à quel point la Torah me dépasse et à quel point je comprends que je peux pas comprendre la Torah. D'accord? Bon, c'est à son niveau. À son niveau, ça s'appelle une punition. Ah, j'aimerais qu'on ait des punitions comme ça, nous. À son niveau, sa punition, c'est qu'une fois, il a pas compris comment ça le dépasse. Oh, il a été émerveillé, il a pas compris comment ça le dépasse. Et ça, c'est sa punition.
Mais quel rapport entre cette punition et le fait qu'il ait pas porté la Torah?
C'est que quand il a pas porté la Torah, hein, c'est un manque de respect envers la Torah. Il n'a pas compris la kedusha de la Torah. Il n'a pas compris que la Torah le dépasse.
Okay. Et ensuite, avec le fait que...
Ah ben c'est ça. C'est quoi l'erreur? C'est qu'il n'a pas compris que la Torah le dépasse. Il n'a pas compris que la Torah, c'est important. Quand la Torah te dit qu'il faut le porter dans les épaules, ça te dépasse. Il ne faut pas poser de questions. Il faut le poser. Il faut le poser sur les épaules et pas le poser sur l'estrade. Donc, il a oublié le fait que la Torah le dépasse. Il s'est permis d'adapter un petit peu.
Et ça voudrait dire que peut-être alors il a fait un tosianel, non?
Non. Apparemment, ce qu'on comprend là-bas, c'est que c'était pas...
Parce que s'il savait que ça aurait été une ravera, il aurait sûrement...
Non, il a fait dans l'euphorie. Les Philistins ont dit venez le chercher. Il est venu. C'est parti d'une bonne intention. C'est pour ça que quand on lit maintenant l'Admor HaZaken, on comprend que finalement cette punition, c'était, bon, punition, c'est pas une punition en vérité, c'est que sur un des Tehillim, il est arrivé à un émerveillement de catégorie A. C'est-à-dire qu'il a pas compris que ça le dépasse, il a juste compris la chose. Il a pas compris comment ça le dépasse. Bon, d'accord. Pour lui, c'était une punition. C'est-à-dire que c'était quoi sa punition? Il disait, mince, je comprends pas comment ça me dépasse, je comprends pas comment ça me dépasse, j'ai trop compris, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai pas compris ici? Et il est resté comme ça, il a pas compris comment ça le dépasse. Bon. On aimerait tous arriver à des punitions comme ça, hein. Que tu t'arrêtes là, tu dis j'ai compris et je suis dégoûté de ne pas comprendre que ça me dépasse. Sur un sujet. Voilà. Et ça, c'est sa punition. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Michael? C'est une punition, ça? On est largué, là.
Ça y est, c'est bon. C'est mort.
Qu'est-ce qui est mort?
C'est mort. On est dépassé, c'est fini.
C'est à quoi on est dépassé?
C'est foutu, ça y est, on sait qu'on comprendra rien. Alors ça y est, qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, ça tu comprends pas.
Nickel, t'as rien compris. Justement, tu vas comprendre.
Pour arriver à l'émerveillement de catégorie B, pour arriver dans l'émerveillement de catégorie B, il faut d'abord passer par l'émerveillement de catégorie A.
Non mais d'accord, ok, mais...
Que ça te dépasse. Mais pour comprendre que ça te dépasse, il faut...
casser la tête à essayer de comprendre quelque chose dans lequel quelque chose... Non, il a été créé par quelqu'un, par Akadosh Baruch
Hu,
et automatiquement, c'est au-dessus de toi.
Non.
Au-dessus de toi dans la compréhension, dans le but, dans le pourquoi, dans le comment.
Dieu, il est au-dessus de toi, quoi qu'il arrive.
Parce qu'il t'a donné les outils pour comprendre.
Jamais à ton niveau.
Il m'a donné les outils pour comprendre.
Mais bon, il faut quand même essayer.
Et le fait même de comprendre que quelque chose me dépasse est déjà extraordinaire. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as les gens qui vont, tu as les météorologistes, c'est-à-dire qu'ils vont analyser la météo. eux-mêmes, ils sont conscients qu'il y a des choses qui les dépassent. Parce que la preuve, c'est que des fois, il y a des prévisions qui sont pas bonnes. Mais ils peuvent être émerveillés de ça. Moi, quand je te dis, bon, moi, j'en sais rien, moi, je connais pas la météo, comment ça marche. Mais eux, quand ils savent exactement comment ça marche, la complexité, etc., il y a un émerveillement. Et plus tu comprends que ça te dépasse, et plus tu es émerveillé de la complexité et de la beauté de la chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en vérité, je vais répondre à sa question. C'est comme pour tout, comme pour la beauté de quelqu'un, comme pour la beauté d'une idée. C'est quoi la beauté? C'est quelque chose qui est infini. C'est que tu te lâches jamais. C'est que plus tu vas avancer, et plus tu vas comprendre qu'il y a encore à gratter derrière et que t'as pas vu le fond. C'est ça la Torah.
On avance.
Celui qui dit j'ai tout compris, que j'ai pas compris, il dit non, ça marche pas comme ça. Il faut essayer de comprendre, et quand tu vas essayer de comprendre, c'est là que tu vas comprendre que ça te dépasse. Quand tu comprends que ça te dépasse, t'as une sensation comme si tu touches à quelque chose qui est beaucoup plus fort que toi.
Donc la mitzvah, elle est aussi de racler le fond.
Et une fois que tu racles le fond, tu comprends qu'il y a encore un fond derrière.
Un exemple,
je sais pas, ça, par exemple. C'est pas parce qu'on comprend, par exemple, je sais pas, les règles de la cacheroute, on fait quelques règles de la cacheroute, que même si la finalité, on mange cachère, on a compris le sens même de manger cachère.
Non,
la fois, je sais pas, je me pose la question. Manger cachère, pourquoi manger cachère? On dit le sabot fendu. Est-ce que pour autant j'ai compris le sens de manger cachère?
Oui et non.
Non, parce que je peux comprendre le règle, mais ça me dépasse aussi de manger cachère.
On dit par exemple que, je tenais un exemple très simple. Là, actuellement, il y a des guerres sur la shrita.
Ouais.
D'accord? On sait, c'est expliqué ça. Il y a un commentaire qui explique qu'un animal, quand tu le tues par la shrita, quand tu le tues par la shrita, c'est moins sauvage. Donc automatiquement, dans la viande, ça met des caractéristiques moins sauvages. Quand tu le prends, tu l'électrocutes, l'animal, d'accord, ça peut laisser des traces dans la viande. C'est une des raisons pourquoi chez nous on fait la shrita. Maintenant, il y a quand même des notions qui sont incompréhensibles.
Quand je mange cette viande,
c'est une viande qui a été abattue normalement. Donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans une viande qui a été abattue normalement. C'est pas la même chose qu'une viande qui a été électrocutée. Ou qui a été tué par un sanglier. C'est pas la même viande. Maneshama perçoit les différences, perçoit la différence. Le consommateur perçoit la différence. Maintenant, il y a des choses qu'on comprendra jamais. Par exemple, quand tu fais la shrita. Non, il y a des choses qu'on comprend. Ça, on comprend. Je peux comprendre. Je peux comprendre, par exemple, que si je mange la viande de lion, ça peut me mettre en moi des caractéristiques d'un lion. Ça, je peux comprendre. C'est vrai, ça. On est ce qu'on mange. Ça, on peut comprendre. On sait, par exemple, que les gens qui mangent beaucoup de viande, ils sont beaucoup plus sanguins, beaucoup plus forts que les gens qui mangent pas de viande. On le sait, ça, c'est prouvé. Ça, je comprends. Mais par exemple, quand tu te dis que dans la shrita, tu dois avoir un couteau qui est parfait. Et s'il y a la moindre rainure dans le couteau, la shrita n'est pas cachée là. Pourquoi? Ça change. Ça, je sais pas. Est-ce que ça peut s'expliquer physiquement, ça? Non.
Alors pour un religieux, c'est mieux de ne pas manger de viande. Quoi.
Pourquoi?
Parce qu'il s'énerve.
Enfin, c'est bien. Il faut manger de la viande.
Il faut des forces pour...
Au contraire, on dit que la Gemara raconte que Rava, avant de donner son cours, il demandait à ses élèves de lui amener du bon vin et de la bonne viande. Et la Gemara a dit, comment ça se fait? Et la Gemara a dit là-bas, elle répond, c'est d'ailleurs dans Tania, dans le nouveau cycle qu'on étudiera dans chapitre 7, il en parlera, il dira, parce qu'en vérité, Rava, il voulait utiliser la force du bon vin, le vin ça ouvre l'esprit, et la viande, ça donne de la force, pour étudier la Torah avec ça. Et on dit que son étude, s'il y avait le bon vin et la bonne viande, ou s'il n'y avait pas le bon vin et la bonne viande, c'était pas la même.
À ce point-là.
Bien sûr. Le bon vin, ça ouvre l'esprit. Je ne suis pas amateur de bon vin, je ne sais pas s'il y a des amateurs ici de bon vin. Le bon vin, ça ouvre l'esprit. Il y a des amateurs de vin ici? Ça ouvre l'esprit, le vin? Donc la viande, ça donne de la force, ça je le sais.
Ça ouvre la tête.
Ça je le sais. La viande, ça donne des forces. Je sais par exemple, quand ma femme était enceinte, par exemple, à chaque fois le docteur, il lui disait de manger de la viande. Plus que d'habitude, parce que ça donne de la force. Oui, parce que ça donne de la force. Ça donne la force pour le bébé, pour elle, etc. Des vitamines. La viande, c'est très important.
Il n'y a pas quelque chose à éviter dans ça si tu sais que ça rend nerveux.
Pourquoi?
Non, il faut l'abuser.
Avec modération, bien sûr. Le Ben Sorer Humoré, c'est celui qui mangeait beaucoup de viande. Non, avec modération. D'accord? Donc, et là, alors je vais venir, on va aller un peu dans les mots. Veilkar, c'est pour ça. Donc je vais faire à l'oral dans les mots parce que c'est déjà l'heure, hein, je vais faire à l'oral la suite. Donc ce qu'il veut expliquer ici c'est quoi? C'est qu'il veut dire qu'en vérité, quelle était l'erreur du roi David? C'est qu'une fois, son émerveillement était du fait qu'il a compris. il n'arrivait pas à comprendre en quoi le sujet le dépassait. Ça, c'était sa punition. Akadosh Baruch Hu le dit, t'as pas compris la kedusha du Aaron, tu l'as posé sur une estrade, et maintenant ta punition, c'est qu'un sujet de la Torah, au lieu de comprendre qu'il te dépasse, tu vas pas comprendre, tu vas pas comprendre comment il te dépasse. Donc là, après, dans la suite, il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, ça, après, il rentre dans toute une notion qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, peut-être une autre fois. Il dit que dans la Torah, il y a le panim et il y a le achor. Il y a la face et il y a l'arrière. La face, c'est-à-dire la profondeur, et l'arrière, ça veut dire c'est ce qu'on croit comprendre. Et en vérité, c'est quoi l'arrière? C'est quand tu crois avoir compris quelque chose. La face, c'est quoi? C'est ce que tu comprends. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu? Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, je veux voir ta face. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il lui dit, tu verras pas ma face, mais tu verras mon dos. C'est comme, enfin, ma nuque. Achora, il a dit mon arrière. Ça veut dire, il n'a pas dit ma nuque, il a dit mon arrière. C'est comme mon arrière. Il dit comme ça, il dit l'arrière, c'est ce que tu crois avoir compris de la chose. Le devant, c'est quand tu comprends la chose. Par exemple, je vois une personne marcher de l'arrière. De sa manière, comment il marche, je crois que je sais ce qu'il pense. Je crois. Mais dès qu'il se retourne et que je vois son visage, tout de suite, c'est une autre personne. C'est-à-dire, tout de suite, dès que tu vois le visage de la personne, tu vois exactement ce qui se passe à l'intérieur. Le visage, c'est expressif. Donc, il dit la même chose. Dans la Torah, il y a le panim, il y a le achor. Il y a la face, il y a le dos. Le dos de la Torah, c'est quoi? C'est ce que tu crois comprendre. Ah, mazal tov, t'as compris. C'est Dieu qui l'a montré. Mais après, quand tu avances avec le temps, tu passes pas au dos de la Torah, tu passes à la face de la Torah. C'est quoi la face de la Torah? C'est quand tu comprends que tu peux pas comprendre. Quand t'es ébloui. Vous savez, quand t'as beaucoup de lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu vois plus rien. Vous avez déjà vu ça?
Oui.
Quand tu te mets devant quelque chose qui est lumineux, qu'est-ce que tu vois avec tes yeux?
Qu'est-ce que tu vois?
Tu vois noir. Tu vois une lumière noire. Tu vois noir. Comment ça se fait? Parce que des fois, c'est tellement fort que t'arrives pas à voir. Bah, il disait ça, le niveau de l'émerveillement. Le premier émerveillement, c'est quand tu vois le dos d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis, oh, j'ai compris. Mais quand plus tu t'approches après, plus tu t'approches de la lumière, et que la lumière t'éblouit, tu comprends qu'il y a quelque chose qui te dépasse, donc automatiquement, tu vois noir, dans le sens que tu comprends que tu comprends pas. Mais quand tu vois noir, c'est un signe que t'as compris, que t'as compris, que t'as pas compris. Ça, c'est magnifique. Alors, je sais que je comprends ta question, tu dis, mais là, t'as compris. Hein?
Ah, c'est
rentré dedans.
Ah, c'est...
Avec la lumière?
Ah, c'est parfait.
C'est vrai?
Ah, sur la vie, je suis très sérieux avec toi.
T'as vu une lumière?
Ouais.
T'as vu la lumière, là? Bon, maintenant, il faut que tu comprennes que t'as pas compris.
Il a vu le noir qui l'a illuminé.
Vas-y, maintenant, chante. Chante, maintenant,
chante dans une lumière.
Avec ça, il explique aussi. Avec ça, je finis avec ça. Avec ça, il explique aussi, on dit que c'est pour ça que c'est écrit dans la Megillah, la Megillah de Zacharie. On dit que Zacharie, une fois, il a fait un rêve, une prophétie. Et dans son rêve, dans sa prophétie, il a vu une Megillah. Et on dit qu'il a vu la Megillah écrite des deux côtés. D'accord? Merci. Voilà. Il a vu la Megillah écrite des deux côtés. Des deux côtés, comme ça c'est écrit. Je vais expliquer tout de suite. On dit aussi que les Luchot étaient écrits des deux côtés. L'étape de la loi était écrite des deux côtés. C'est-à-dire que tu pouvais lire de n'importe quel côté. Et tu arrivais à voir. C'était un miracle, ça, parce que c'était des lettres qui étaient gravées, qui transperçaient. Et tu voyais d'un côté, tu voyais un même. Tu voyais de l'autre côté, tu voyais un même à l'endroit aussi.
À l'endroit.
Donc c'est impossible. C'est impossible. C'est un miracle. Alors, dit l'Adbor Azakan, il pose la question, il dit pourquoi Dieu a fait ce miracle? Quand il s'adresse à Zacharie, une Megillah, des deux côtés. Les Luchot, des deux côtés. Pile, face. Pourquoi il a fait ce miracle? On sait très bien que Dieu ne fait pas de miracle pour rien. L'étape de la loi, c'est déjà une kedusha extraordinaire. Pourquoi avoir fait un miracle que tu pouvais les lire de côté, de pile et face? Maintenant, il explique, il dit, c'est très simple. Parce que dans la Torah, il y a pile et face. Face, c'est quoi? Face, on a expliqué, c'est, non, il y a, non, pile et face, non, pas pile et face. Il y a l'avant et l'arrière. D'accord? L'avant, c'est quoi? On va commencer par l'arrière. L'arrière, c'est quoi? C'est quand tu crois que tu as compris. L'avant, c'est quoi? C'est quand tu comprends que t'as pas compris. C'est pour ça, tout ce qu'il y a dans la Torah, chaque fois que Dieu nous parle, il y a toujours pile et face. Avant, arrière. Dieu nous a donné les louchot, tu peux les lire d'un côté, tu peux les lire d'un autre côté. Quand tu les lis d'un côté, tu comprends que t'as compris. Mazal tov. Quand tu passes de l'autre côté, tu comprends que ce que t'as compris, en vérité, t'as pas compris. Et toujours dans la Torah, il y a toujours... Oui, connais ce qu'on dit. C'est pour ça que chaque fois dans la Torah, on nous demande d'avoir panim et achor. Ça veut dire quand tu as compris, on te dit maintenant de réfléchir comment la chose te dépasse et comment justement aller au derrière de tout ça. D'accord? Donc voilà pourquoi les louchot étaient écrits de deux côtés. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem. Alors on aura encore deux cours normalement. On aura deux cours. Deux cours. Et le dernier cours, Bezrat Hashem, on terminera le Tanya et après on recommence un nouveau cycle Bezrat Hashem. Voilà.
C'est sur deux cours, on est le 8, on est le 9 ce soir.
Oh ouais, c'est bon.